Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, dirigé successivement par Serge de Bekech et Daniel Amiche, avec l'assistance de Jacqueline Levenbruck, document d'archives du 21 novembre 2001, rediffusé dimanche 26 février 2012 dans la nuit de 2h à 5h. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Amis de la Reconquête, bonsoir. Ce soir, clan de la presse autour de cette table, encadrant Marie-Camille Galli de Rivarol, Jean voilà. Madiran, bonsoir Marie-Camille, Jean Madiran de présent. Bonsoir Jean.
Oui, bonsoir.
Il était en train de contempler Marie-Camille avec un air à la fois ému et un peu coquin.
Oui, oui.
Hein, voilà, c'est ça, c'est, on peut le dire.
C'est vrai.
Bah, qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je dis tout.
Et je lève les yeux aussi.
Oui, vous êtes, ça vous navre. Jean-Claude Varane.
Bonjour.
Très bien coiffé, Jean-Claude, je n'avais pas remarqué. L'élégance, merci. Toujours, un raffinement extrême de la tenue.
Merci beaucoup.
Ouais. Il faudra que ce soit télévisé pour qu'on voit.
Eh oui.
Qu'on voit l'expression de Jean, qu'on voit la pochette de Jean-Claude.
Et les yeux au ciel de Camille.
Et les yeux. Alors, le clair de Jean.
J'ai cru que Jean-Claude avait une cravate à fleur de lys, ce qui, pour le représentant d'un candidat républicain, me paraissait déplacé. Mais non, c'est une cravate à croix de Malte.
C'est la cravate du cercle. Le Renaissance.
Ah, bon, je crois
il y a un débat ce soir avec le Bijard, le général Bijard et Roger Hollande.
Bijard, vous avez dit Bijard.
Bijard.
Tu vas peut-être être intéressant parce qu'on dit qu'il se prononcerait pour Chevènement.
Voilà. Et comme je vais mentir aussi. Lui.
Comme je vais à ce dîner ce soir, à ce débat, on m'avait demandé de porter la cravate du cercle Renaissance. Qui m'a été offert.
Chacun sa croix.
Voilà.
Non, je dis ça parce qu'il y a des croix sur le. Qui ressemblent un peu aux croix qu'il y avait sur les avions pendant une chasse. Dans les années les plus sombres. Sur certains avions, pardon.
Des croix sombres aussi.
Des croix, voilà.
Oui, voilà.
Emmanuel Ratier de Faits et Documents.
Bonsoir. Comme je n'ai pas de dîner, j'ai pas mis de cravate.
Non, c'est ça. Et puis alors, Henri de Fersan, qui. Alors lui, je dois dire qu'il est vraiment gonflé parce que. Il a débuté dans le Libre Journal, c'est moi qui fais sa carrière, ni plus ni moins, il faut dire les choses comme elles sont. Puis, mine de rien, il a créé un petit journal qu'il appelle le Libre Arverne, quand même assez gonflé. Oui. Les lettres Fersan, ça c'est joli, dont la devise est « Donne un cheval à celui qui dit la vérité, il en aura besoin pour s'enfuir ». Pas mal. Hein.
C'est un proverbe ouzbek.
Ceci n'est absolument pas une blague, c'est un proverbe afghan.
Non, mais pour les lettres persanes, il y a ouzbek.
C'est le moment.
C'est vraiment d'actualité.
C'est un proverbe de l'ordre du jour.
Alors, cela dit, je vous précise quand même que la devise, c'est ce qu'il y a de mieux dans le journal. Hein.
Oui, ça arrive souvent nous aussi.
Vous pouvez lire le Libre Journal, Fersan est dedans, le meilleur de Fersan est dans le Libre Journal. Les Libres Journal.
Ne multipliez pas les services de presse.
Ben voilà, ça c'est un appel direct de M. Madiran qui vous incite à lui envoyer
son, bonne note.
Votre journal. Ce qui, je vous assure que c'est plutôt flatteur. Hein, parce que,
Comme dirait un ancien ministre de la Défense, je le note.
Voilà, bon, alors, l'actualité. Avant de passer à l'actualité, je voudrais vous raconter ce qui m'est arrivé cet après-midi. J'ai reçu le coup de fil d'un jeune homme qui s'appelle Marius. Un très, très jeune homme. Hein. Peut-être pas donné d'âge, parce que ça se fait que ça s'est fait facilement, les jeunes gens. Mais en tout cas, il a moins de 12 ans et probablement plus de 8. Voilà. Et qui m'a dit, monsieur, j'ai une information pour vous. Savez-vous pourquoi Ben Laden a déjà gagné? Alors, j'ai dit non, je ne sais pas. Il m'a dit, parce qu'il a pris 2 tours à Bush. J'ai dit que c'était déjà ce jeune homme qui s'intéresse à la politique d'une façon aussi efficace et futée et affûtée. Ça mérite d'être cité. Alors, je lui ai dit que je donnerai cette information à nos auditeurs.
Il pourrait publier un futur volume avec Alain Sanders d'aphorismes humoristiques.
oui, bon, ben ça, alors, vous réglerez ça avec Sanders, mon vieux. En tout cas, ce jeune homme s'appelle Marius. Et puis, un autre auditeur m'a téléphoné en me disant, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un appel de l'UNICEF pour les enfants afghans? J'ai dit oui, bien sûr, on a tous remarqué ça. Il me dit, est-ce que vous aviez remarqué qu'il n'y a jamais eu d'appel pour les enfants irakiens? Et c'est vrai aussi, pas que je sache. J'ai pas l'impression que l'UNICEF ait appelé à une solidarité mais, quelconque avec les enfants irakiens.
Mais parce que la position légale et officielle est différente. C'est qu'il y avait la guerre contre l'Irak, c'était vraiment une guerre, tandis qu'il n'y a aucune guerre contre les Afghans. Au contraire, on essaie de sécuriser les aéroports pour leur porter la nourriture.
Et d'autant plus que l'UNICEF était, entre guillemets, en guerre contre l'Irak, puisque l'UNICEF, comme son nom l'indique, appartient à l'ONU, enfin, du moins dépend de l'ONU. Plus ou moins.
L'UNICEF,
c'est un fonds de l'ONU, c'est une des agences de l'ONU.
Ah, pas
comme
seulement
le HCR
parce que le logo de l'UNICEF ressemble furieusement à celui de l'ONU.
Oui, c'est une agence de l'ONU. Oui.
Je pense que ça va rassurer les enfants afghans de savoir que s'ils meurent de faim, c'est pas de la faute des Américains. Voilà.
C'est peut-être pas mauvais qu'il y ait des appels en faveur des enfants afghans, parce que j'ai vu qu'il y avait des associations qui avaient pris le nom de Bactriane. Oui. Alors, c'est un mot, ça, le terme de Bactriane, on ne l'avait quand même pas entendu depuis longtemps. Hein. C'est pas mal que ce soit...
Si vous pouviez être un tout petit peu plus explicite, ça me rendrait service pour ne rien vous cacher.
Ah ben, c'était de la région, le nom, Jean Vam, en grec, de l'Afghanistan. Il y avait la Sogdiane et la Bactriane.
C'est comme ça que ça s'appelait à l'époque d'Alexandre
le Grand.
C'est quand Alexandre le Grand a vaincu la
Bactriane. Quand Néarque raconte ses expéditions, je crois qu'il parle de la Sogdiane.
Je vous appuie par un silence éloquent.
Je pense que Jean Dernalier osait parler de la sous-culture journalistique. Ben voilà, de la culture.
Ah non, mais attendez, il y a peut-être un lecteur un auditeur qui appellera pour dire elle se gourre.
Même si c'est pas le cas. Quelqu'un appellera.
C'est pour ça que je t'ai placé sous le contrôle de Jean.
C'est pour ça que mon éloquence a été silencieuse.
Bien, alors, l'actualité est intéressante et nombreuse, mais j'allais dire de quoi. Avec qui voulez-vous lutter? Non, de quoi voulez-vous parler? Il y a un sujet qui me passionne, c'est l'échevènement. C'est-à-dire de voir. Non, ça ne vous passionne pas, vous, Marie-Camille?
Non.
De voir ce personnage...
Je le trouve très plat.
Oui, plat, voilà, c'est ça.
Il a une voix plate.
Ah, il a une voix très mauvaise pour une candidature
plate.
De cette sorte.
Ouais, il est très
son vocabulaire est plat.
Oui. Oui,
ses arguments sont plats. À part ses cheveux, je ne vois pas très
mais à part
bien...
apparemment, beaucoup de gens sont prêts à mettre leur cuillère dans ce plat.
Le genre littéraire en question comporte beaucoup de platitudes, quels qu'en soient les auteurs.
Oui.
En quelque sorte, si on peut dire, le lion de Belfort est devenu une descente de lit.
Mais il est quand même très médiatisé, c'est ce qui le porte peut-être en avant, et il est peut-être certainement médiatisé, aussi bien par la droite que par la gauche, parce que ça intéresse la gauche et la droite, à mon avis, que chevènement prenne de l'importance. Excusez-moi.
C'est sûr.
Non, non, c'est la personne qui vous appelle qui manque vraiment d'à propos.
Je la coupe.
Ah, Emmanuel, est-ce que vous avez des choses intéressantes et désagréables à dire à propos de chevènement?
Sur chevènement, on peut tenir pendant 4 heures.
Oui.
Il y a vraiment beaucoup de choses à raconter.
Oui.
Et de toute façon, je ne veux pas qu'apparaît le matron. Le micro, National Hebdo a fait 2 articles déjà complets sur chevènement. Je pense qu'il y en aura d'autres.
Qui est-ce qui a fait les articles dans National Hebdo?
C'est
Michel Limier, voilà. Qui écrit régulièrement dans National Hebdo.
Il me semble.
Ce qui est tout à fait. Enfin, je pense que une fois que le dialogue sera amorcé, on pourra en parler. Mais ce qui est tout à fait,
Jean-Claude qui tire sa conversation au téléphone.
Ce qui est tout à fait extraordinaire, bon, c'est de voir la diversité des ralliements à Jean-Pierre Chevènement. Ce qui est absolument stupéfiant. Il y a des gens qui disent, par exemple, Annie Seleport a rejoint Jean-Pierre Chevènement. Mais c'est pas nouveau. En 94, il était numéro 3 sur sa liste aux européennes.
Nouveau. Entre nous, le ralliement d'Annie Seleport, ça va pas ébranler les colonnes.
Mais il était numéro 3, il y avait Jean-Pierre Chevènement, Gisèle Halimi et Annie Seleport, il était en numéro 3. Bon. On nous dit il y a le général Gallois. Mais le général Gallois, il était en numéro 19 aux européennes en 80. Je crois que 19e position sur sa liste. Bon, c'est pas nouveau. Bon. Alors, ce qui est plus bon, alors on a Paul-Marie Couteau. Alors, Paul-Marie Couteau, personne ne sait très bien où il se situe. Il a tout fait.
Mais il était allé à des congrès de chevalement précédemment. Bon. Donc,
et lui, c'est un vilain. Mais ce qui est fascinant, c'est Michel Pinton.
Ah oui, ça, Michel Pinton,
c'est quand même absolument extraordinaire.
Parce que pour le PAC, ça, c'est très
parce que Michel Pinton, bon, il faut le resituer, c'est quand même été le grand conseiller mondialiste de Valéry Giscard d'Estaing. Ouverture, enfin, ce qui paraît, ce qui est un truisme ou une banalité aujourd'hui. Bon, à l'époque, bon, dans les années 74-80, tout le monde ne savait pas encore ce que c'était que le mondialisme. Et... à l'époque, ça pouvait surprendre. Bon, lui, il a ouvert, il était très trilatéraliste, etc. Bon, puis il fait une espèce de teshuva, entre guillemets, c'est-à-dire revenant à la religion catholique. Tendance, dirait-on, boutin, si vous voulez, pas trop loin, mais un petit peu dur. Et il lance la pétition contre le PAC, la fameuse pétition anti-PAC des maires, qui aurait été signée par à peu près 15 000 maires en France, ou en tout cas plusieurs dizaines de milliers de maires, plus des premiers adjoints et ce genre de gens. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, toutes les propositions de loi pour le PAC ont été déposées par des membres du mouvement des citoyens de Jean-Pierre Chevènement.
Emmanuel, mais les premières, avant même le vote de la loi,
93.
C'est dans des municipalités tenues par des chevènementistes comme Chenauve, où c'était...
Jean-Pierre Michel.
Roland Carraz. Voilà. Saint-Nazaire. Municipalités qui ont célébré des PACS sauvages et précurseurs à l'époque étaient des municipalités chevènementistes. Voilà. Et Jean-Pierre Michel, qui demande maintenant l'adoption, le droit à l'adoption pour les PACSés, est
un député
chevènementiste.
Et c'est lui qui a déposé.
Alors là, on est quand même
en
pleine imposture.
C'est de voir que Jean-Pierre Michel, que Michel Pinton vient de rejoindre Jean-Pierre Chevènement. Donc, effectivement, je pense que c'est un leurre et que c'est une espèce, pour le moment, d'attrape-tout destiné, en partie, je pense, à tenter de récupérer ou d'amoindrir le vote nationaliste qui pourrait se porter soit sur Jean-Marie Le Pen, soit sur Bruno Maigret.
C'est
un leurre parce qu'il est évident que Jean-Pierre Chevènement appellera au second tour à voter en faveur de Lionel Jospin. La meilleure preuve, c'est que, on l'a déjà oublié, mais en juin 99, Jean-Pierre Chevènement, quelques mois, même pas six mois après la signature du traité d'Amsterdam, figurait sur la liste socialiste aux élections européennes et a été élu député européen sur la liste qui était qui était conduite par François Hollande. Donc, qu'on ne nous dise pas maintenant que c'est un opposant à Lionel Jospin.
Et le chef de la campagne présidentielle de Chevènement est Michel Suchot, et le meilleur ami de François Hollande. Il se voit sans arrêt. Tout ça, vraiment, ce sont des leurres, et je ne sais pas si Michel Limier en parle dans National Hebdo, mais également le Parlement des banlieues, enfin, qui sont vraiment des machines immigrationnistes, sont l'œuvre de Chevènement, Karim Daïbi, Ziribi, qui est un chevènementiste. Donc, c'est vraiment, enfin, que... Et nous avons des lecteurs qui nous disent, qui nous écrivent, vous pourrez dire ce que vous voudrez, je voterai Chevènement. Ça paraît quand même absolument...
On est encore loin du scrutin, n'est-ce pas.
En ce qui concerne Couteau, il a fait dernièrement quelques approches auprès du Front National. Et effectivement, il vient d'un petit peu de prendre une position chevènementiste. Il y a aussi du côté des chevènementistes, je crois, beaucoup de francs-maçons, il me semble.
Oh, oui. Le mot est faible, le mot « beaucoup » est faible.
Un auditeur nous rappelle que lorsqu'il était ministre de la Recherche et des Universités au début des années 80, Chevènement avait nommé à la tête du département sciences humaines du CNRS l'ethnologue marxiste Godelier, par-dessus la tête du directeur général du CNRS, contrairement à l'usage établi, ce qui avait entraîné la démission en bloc de tous les chefs de département du CNRS. ce qui, tout ça, c'est de la cuisine, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il avait nommé un marxiste.
Oui.
Il y a une affaire quand même qui est, à propos de Chevènement, qui est intéressante, me semble-t-il, c'est l'affaire Corse. Parce que, quoi qu'il en soit, c'est une affaire qui est très très embêtante pour lui. Étant donné qu'il y a deux possibilités. Ou il a donné des ordres à Bonnet. Et alors, à ce moment-là, il est co-responsable de ce qui s'est passé, c'est-à-dire d'un crime, incendie volontaire, quelles que soient les circonstances qui ont accompagné ce crime, et même si on trouve que de temps en temps, c'est tout à fait normal que la gendarmerie ou la police ou les services d'ordre, quand ils se heurtent à l'incurie de la justice, prennent des mesures d'ordre public, ça, on peut trouver ça normal quand on est, quand on est partisan d'un pouvoir fort. En tout cas.
À condition de pas se faire.
À condition de pas se faire prendre, ça va s'en dire.
C'est le signe d'un pouvoir faible, en tout cas, quand.
Oui. En tout cas, donc, où il a donné un ordre, et cet ordre a été exécuté, et après, c'est une lopette, parce qu'il dit, moi, j'ai jamais rien dit à personne, c'est pas de ma faute, c'est une initiative individuelle du préfet Bonnet, où il n'a pas donné d'ordre, et alors c'est très grave, parce que ça veut dire que, dans sa carrière ministérielle, quand il choisit un préfet pour un poste aussi extraordinairement délicat et sensible que celui de préfet de Corse après l'assassinat du préfet Erignac, il choisit un fou.
Oui, mais est-ce que vous êtes sûr que votre dilemme n'est pas trop rigoureux? Parce que quand les
dilemmes sont toujours rigoureux, autrement c'est pas des dilemmes.
Non, mais parce que entre donner un ordre et ne pas donner un ordre, c'est ce qu'on a rencontré dans toutes les histoires, spécialement républicaines, mais même peut-être monarchiques. Le supérieur laisse entendre que si on le débarrassait, que ceci, cela, et quelquefois d'ailleurs l'exécutant interprète de manière trop littérale ce qu'il a cru comprendre, le supérieur garde d'ailleurs la possibilité, même si c'était pas son intention, de dire « mais comment a-t-il pris, c'était une boutade, n'est-ce pas ?» J'ai fait une citation latine, Delenda est paiota, et puis il a pris ça, mais personne ne veut prendre ça au sérieux. Mais ça dépend aussi de la manière dont il l'a dit. Parce que si on dit, Delenda, qu'est-ce qu'il m'a. Cher ami, je me demande qui pourrait me débarrasser de ça.
J'ai déjà raconté cette histoire dans un livre qui s'appelait Zdek Service 7. Il y a une anecdote que j'ai vécu, mais de l'autre côté, si j'ose dire. C'était à l'époque de l'affaire Pompidou. La rumeur courait Paris que des photos existaient compromettantes.
Les fameuses photos
Pompidou. Moi, je les ai vues. Elles étaient grossièrement truquées. Je peux en parler. Et la rumeur courant que ces photos circulaient, Pompidou s'était mis dans la tête qu'elles étaient dans le coffre de Minute, ce qui était d'ailleurs pas totalement faux. Et il recevait un jour un des responsables des services, de la division action du SDEC, et ce jour-là, la presse annonçait qu'il y avait eu un incendie, je ne sais où, je ne sais plus dans quel journal. Et Pompidou dit « Ah, c'est pas Minute qui brûlerait ». Voilà. Trois jours plus tard, Minute était ravagée par un incendie. Bon, et l'auteur de service, de SDEC Service 7 raconte que c'est effectivement le responsable en question, qui était un officier de marine, qui, ayant entendu le président de la République dire ça, s'était immédiatement arrangé pour faire foutre le feu à Minute. On a fait une enquête à l'époque, on a identifié le gars, on l'a photographié, on a publié sa photo dans toute la dernière page en disant voilà l'homme qui a mis le feu à Minute et qui a failli provoquer un cataclysme au centre de Paris, parce qu'au-dessous de Minute il y avait l'imprimerie du Croissant, dans laquelle, à l'époque c'était comme ça dans les imprimeries, je sais pas si c'est toujours le cas, il y avait des milliers de litres, des dizaines de milliers de litres de dissolvant.
Et des bobines de papier.
Et des bobines de papier, et surtout du dissolvant pour les centres.
De l'essence et du dissolvant pour nettoyer les plaques, pour...
Donc si ça avait atteint les réservoirs d'essence, ça pouvait faire exploser le centre de Paris, littéralement. Bon, ça s'est pas passé parce que les pompiers ont bien fait leur boulot, mais ça aurait pu arriver. Donc là, on est exactement dans ce cas de figure, politique qui donne un ordre.
Pourquoi pas Matignon?
Ça, Pasqua a répondu ce matin sur Europe 1 en disant que c'est pas Matignon qui donne des ordres. Ou alors là, c'est encore plus grave, ça veut dire que Chevènement acceptait que Matignon donne des ordres
Le dossier Corse était quand même suivi directement depuis Matignon par deux personnes.
Oui,
c'est vrai, par
un rapport direct avec le préfet.
Alors, pour résumer, ça veut dire que Chevènement qui prétend devenir président de la République, quand il est ministre, il n'est pas capable de faire son boulot correctement, puisque ou il se fait court-circuiter par le Premier ministre, ou il recrute un fou, ou il donne des ordres criminels. Il y a une des trois solutions qui est valable. Dans les trois cas, moi, je vous dis carrément que je ne voterai pas pour lui. Ça, c'est absolument...
Bah, abandonnons Chevènement.
Peut-être n'abandonnons pas Chevènement.
Il va se défiler de toute manière, faut pas se faire d'illusions.
Je crois que nous n'avons pas envisagé la seule question qui nous intéresse vraiment. Parce que, bon, avoir des arguments contre Chevènement, premièrement, nous en avons. Bien, ils sont solides, vrais, et il semble, d'après votre expérience, et peut-être d'après d'autres expériences, qu'ils n'agissent en rien sur ceux qui ont l'intention de voter, qui déclarent l'intention de voter Chevènement.
Vous disiez quelque chose très juste l'autre jour, Jean.
Pourquoi ? Oui, mais qu'on n'a pas examiné, là, peut-être que c'est ça qui intéresse Serge, d'ailleurs, je ne sais pas. Pourquoi y a-t-il un engouement, il y a une part artificielle, il y a un montage médiatique, etc. Bon, ça, bon, il y a un soutien parce qu'on veut mettre un leurre, nous disons que c'est un leurre, regardez qui est Chevènement, les chevènementistes. Mais cela dit, qu'est-ce qui intéresse, qu'est-ce qui capte l'intérêt de braves gens, quelquefois, que nous connaissons, qui sont même des lecteurs de Rivarol, peut-être des lecteurs de Présent, peut-être des lecteurs du Libre Journal, et qui disent, moi, je voterai pour Chevènement.
Pourquoi? Pas des lecteurs de National Hebdo, en tous les cas.
Bon, ça ne m'étonnerait pas que les auteurs...
Non.
Allez, s'il y a un auditeur qui est un lecteur de National Hebdo et qui peut le prouver, qui décide à voter Chevènement, il faut qu'il nous téléphone.
Non, mais ce que vous dites, c'est absolument exact. C'est qu'il y a un engouement actuellement.
Il y a un phénomène.
Et ça, c'est toujours le phénomène de l'homme providentiel, avec quelques intellectuels, parce que c'est une opération qui a été montée depuis plusieurs mois par plusieurs petits groupes d'intellectuels, notamment les gens qui étaient près de la Fondation Marc Bloch. Avec Fondation Marc Bloch, c'est les gens de Faré Balise, les gens comme Taguieff, les gens
c'est comme, fait élire comme Chirac, Debray,
mais c'était les gens qui voient qui ont joué Seguin comme carte, puis voilà. Seguin les a déçus, ils ont déjà joué Chevènement, et puis c'est Chevènement à l'époque, hein. Donc après ils ont joué Chirac avec la fracture sociale, et puis comme Chirac, les a déçus, ils se cherchent toujours un papa, et là ils se sont trouvés papa, qui est Chevènement.
Chirac, qu'est-ce qu'il a mis, hein? Sur la nation, l'État, l'horizon national, son discours au maire. Alors, il y avait Fillon au même moment qui disait sur LCI, on est passé le mot nation, il faut qu'on n'ait pas davantage le mot nation. Nous avons trop laissé tomber le mot nation en plein électoralisme, en plein mot nation. Alors, au même moment, Chirac, qu'est-ce qu'il a mis? Et il trouve une place, le peuple français, la nation et son État qui trouvent place entre je ne sais quoi et l'Europe. Et là, il y a un horizon national.
La région et l'Europe, probablement.
Entre la Méditerranée et l'Europe.
Et alors, sur la restauration de l'État, la restauration de l'autorité de l'État, quand c'est de la part des présidents de la République, naturellement, c'est dérisoire.
Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'est pas dit, mais on se demande ce qu'ils attendent pour faire quelque chose.
La France, comme une annonce météorologique, la France va devoir restaurer l'autorité de l'État, bien, et puis la cohésion nationale, et puis alors, avec aussi un simplisme républicain extraordinaire, quand il ajoute que d'ailleurs, ce qui fait l'unité française, c'est que il n'y a pas de féodalité, il n'y a pas de privilèges, il n'y a pas de cas particuliers, il n'y a pas de communautarisme, il n'y a que des citoyens et citoyennes tous égaux. Mais à travers tout ça, c'est quelques relents de jacobinisme égalitaire et tout ce qu'on voudra, quelques relents de barésime, etc. Il a mis toute la gomme.
Alors,
et ça, je crois que pour Chevènement, ça va être un coup dur. Parce que c'est les choses que Chirac sait faire.
Vous imposer un dilemme rigoureux.
Oui, mais le précédent, vous avez vous-même renoncé à le
souvenir. Mais en ce qui concerne Chirac, quand il tient ce discours, est-ce que c'est lui qui est un imbécile ou est-ce qu'il prend les Français pour des imbéciles? Voilà, c'est un vrai dilemme, ça, quand même.
Non, je crois qu'il prend les Français pour des électeurs. Voilà. Lui, c'est un candidat et il prend les Français pour des électeurs.
D'accord, c'est bien ce que je disais, alors. Voilà.
Pour en finir avec Chevènement, je crois qu'il
absolument.
Vous voulez qu'on le tue?
Non.
L'ordre fut donné par Camille.
Je ne suis pas sanguinaire. Mais je crois qu'il y a une chose qui joue en sa faveur, justement. C'est son passé de miraculé républicain. Ouais. Je crois que les gens qui avaient été émus par la prostate de Mitterrand sont émus par le parcours médical et la résurrection.
Ah, puis ça a contribué
chevalier
à sa notoriété.
La
notoriété présidentielle, à laquelle il est si difficile d'atteindre, la notoriété présidentielle, voit pas mal à l'affaire du miraculé.
Alors à ce moment-là, il faut.
Alors là, c'était match, les journaux féminins, les magazines féminins, Figaro Madame, machin et tout.
Ça lui a donné une dimension.
Oui, si c'est le fait d'être dans cet état-là qui lui vaut des voix, Chirac va être élu les doigts dans le nez. S'il suffit d'être un crétin, ou crétinisé, ou un peu demeuré pour gagner l'élection, c'est même pas la peine de faire une présidentielle. Il y a qu'à reconduire Chirac pour deux quinquennats, à mon avis. Enfin. Alors, des questions ou des réflexions d'auditeurs, si vous permettez. Pour en finir, Marie-Camille, avec Chevènement, je vous rassure tout de suite. J'ai assisté au meeting de Jean-Pierre Chevènement à Saint-Nazaire la semaine dernière. J'ai été très déçu, avec une CDI. C'est un public de vieux laïcs, Troisième République, et un orateur mollasson, beaucoup moins percutant que le personnage que nous montrent les médias. C'est un leurre, je suis tout à fait d'accord avec votre clan. Ben voilà.
Non mais Mitterrand disait lui-même que Chevènement avait un gros problème, c'est que c'était un très mauvais orateur. Bon, et pour qui a entendu Chevènement, c'est une catastrophe.
Mais il n'a pas la voix d'abord. Il n'a pas la voix. Il est, si, même
les
avec un bon
geste,
il
est ce qu'on
imagine. On imagine un débat entre Chevènement et Bérou.
Voilà.
Très haut ça niveau. Enfonce les ventes de somnifères en France. Ça s'arrête.
Ça, c'est un débat. Alors, qui est sponsorisé par Français.
N'oubliez pas que M. Chevènement a inventé la douce expression sauvageon pour parler des voyous de banlieue, bien sûr, mais il n'a pas fait que ça. La presse fait passer de manière discrète Chevènement pour un maurassien. Et donc, certains électeurs de la droite nationale sont dupes de cette campagne. Oui, mais je pense que les électeurs qui savent lire, et parmi ceux qui savent lire, ceux qui ont lu ne serait-ce que trois phrases de Maurras, peuvent pas rester dupes très longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean, vous qui êtes probablement le plus maurassien de nous?
Il a cité quelquefois Maurras, effectivement.
Non, mais c'est, il a cité Maurras et oui, il a lu Maurras.
Oui.
Ça doit être parmi, avec François Mitterrand, ça doit être un des rares
à savoir qui c'est.
À savoir qui c'est. Bon, et oui, en plus, il est tout à fait vrai que dans sa prime jeunesse, quand il était à l'Institut d'études politiques, il a consacré un mémoire sur la France face à l'Allemagne, mémoire extrêmement ambigu, dont il faudra certainement reparler un jour, et où, à peu près, trois fois par page, il cite Maurras. Oui. Donc on peut pas dire qu'il connaît
pas Maurras. C'est pas le fameux mémoire qu'il avait soutenu, avec Raoul Girardin?
Non, mais il a pas, oui, mais pas soutenu, il l'a présenté, voilà, bon. Et à l'époque, Raoul Girardin était, c'était l'ancien chef de la propagande OSP Tro, et il est dédié à Raoul Girardin, il est dédié à Pierre Debray, le fondateur des Silencieux de l'Église. Il est fondé, il est
ancien de France Urs,
voilà. Et Roland Gaucher, il y a quelques années dans National Hebdo, avait raconté de même que Pierre Debray comment ils avaient eu la visite de Jean-Pierre Chevènement, tout jeune étudiant à la fin des années 50.
C'était sa période Patrie et Progrès, non?
Alors, oui, c'est ça.
Un auditeur nous dit il faudrait envoyer la cassette aux généraux Bigard et Gallois. À ce propos, je voudrais faire une remarque.
Envoyer quoi?
Envoyer la cassette de cette émission à Bigard et Gallois. Enfin, je voudrais faire je donne la parole tout de suite, Henri, mais je voudrais faire une remarque. Il y a chez nous, dans notre famille, je ne sais pas si vous êtes de cet avis, enfin, si vous voyez ça dans les lettres des lecteurs notamment, il y a une espèce de manie qui consiste à considérer qu'il y a des gens qui sont des oracles en tout. Alors, par exemple, on est lepeniste. Bon, Le Pen a tout le temps raison, tout le temps, surtout. Que si Le Pen dit que la Peugeot, par exemple, 306, c'est pas une bonne voiture, le type qui dit que la Peugeot 306, c'est une voiture formidable, c'est un salaud. Si le pape, c'est le pape. Quand le pape dira un jour qu'il aime pas les nouilles à la tomate, le gars qui continuera à bouffer des nouilles à la tomate deviendra un ennemi de la foi. Alors, on a eu sur cette radio, depuis longtemps, on a souvent le lundi dans l'émission de Jean Ferré, des analyses du général Gallois qui sont éblouissantes sur la situation internationale, etc. Bon, et c'est vrai que c'est extraordinaire de clarté, de rigueur intellectuelle, de référence, d'information, tout. Bon, au bout de cette analyse extraordinaire, le général Gallois dit « Moi, j'apporte mon soutien à Chevènement ». Eh ben, son analyse est extraordinaire, ses conclusions, elles me conviennent pas. Voilà. Donc je dis, je suis passionné par ce que dit le général Gallois.
C'est une faille dans l'analyse aussi.
C'est possible, mais je suis passionné par ses analyses quand il m'explique le monde, mais quand il me dit ce que lui va voter, je dis, mon général, faites donc, après tout, vous avez quand même plus de 20 ans et vous savez ce que vous allez faire, vous êtes majeur et vacciné, comme disait ma grand-mère. Ouais. Mais moi, je ferai pas comme vous, parce que pour moi, Chevènement incarne une formidable imposture. Et je dis, je suis quand même surpris, c'est un bel euphémisme, qu'un homme de l'envergure intellectuelle du général Gallois puisse se laisser piéger. Bon, pour Bijard, de toute façon, Bijard, alors là, c'est autre chose. Là, on sort de l'épure, si j'ose dire.
Mais non, dans le cas de Gallois, il peut être aussi que tout simplement, il ne connaît pas le passé de Chevènement.
Ah, et d'autant plus que pour Chevènement, il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand Chevènement a été ministre de la Défense, il avait demandé à un officier de l'armée française qui était sur sa liste aux Européennes, le colonel Dabzy, un rapport contre Saint-Cyr visant à amener un rapport suffisamment bien orienté pour amener à la fermeture de Saint-Cyr. Alors je suis, disons, surpris de voir que certains militaires continuent à voir Chevènement en Chevènement une sorte d'homme providentiel, alors que c'est quand même l'homme qui a voulu la peau de Saint-Cyr.
Alors, les autres nous disent, entre Chirac, Jospin et Chevènement, je préfère Chevènement. Ben, moi, je préfère rester couché. Moi, si c'est ça le choix, je reste à la maison. Et puis, on va en finir, parce que je crois que, de toute façon, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je crois que Chevènement s'est râpé, c'est foutu. Et la preuve, elle réside dans cette phrase que nous adresse un auditeur. Monsieur Pierre Poujade vient de se rallier à Chevènement.
Oui, il l'a dit d'ailleurs. Chevènement a dit que les astres lui étaient favorables puisqu'il avait Poujade qui s'était toujours rallié au vainqueur.
Ah bon ? Oui, mais après la victoire en général, pas avant.
Il veut faire carburer Chevènement Topinambour, non ?
Alors, un autre sujet. On avait parlé de... Jean, vous vouliez évoquer une...
Non, pas mais Chirac, oui, mais enfin, j'ai dit ce que je pensais, mais le coup de barre de électoral de Chirac est extrêmement net, très détaillé. D'ailleurs, j'ai pas le texte complet, mais d'après les morceaux qu'on aurait pu avoir entre des dépêches et les journaux qui donnent assez de trucs, c'est un texte très travaillé, convenablement écrit, et qui portera. Parce que quand Chirac parle en tant que candidat ou en tant qu'adversaire politique, il parle. Le coup le plus dur que le Front National a reçu, c'est lorsque Chirac, parlant en tant que président de la République, a dit un parti xénophobe, antisémite et raciste. C'est la seule chose qu'il sait faire, c'est la seule chose de pas dire peut-être qu'il aime faire, en dehors des vacances et des fonds secrets. Il est à son affaire. Oui.
Donc vous pensez que ça va... Son expression va marquer au fer rouge la campagne, que la campagne va tourner
Je pense qu'une journaliste qui n'est pas du tout de notre bord, certes, mais qui a eu quelquefois des formules exactes et des coups d'œil, il y a très longtemps, avait dit Chirac, c'est le faucon.
Ça dépend comment on l'entend.
Le faucon qu'on a sur son poing, et qu'on lâche contre quelqu'un, et Chirac, il tue.
Remarquez, Marie-France Garraud disait qu'il était du marbre dont on fait des statues. Je me suis aperçu qu'il était de la faïence dont on fait des
statues. Oui, mais pas parce qu'il n'a pas de vertèbre politique. C'est un caméléon. Il prend toutes les couleurs successives. Il y a 36 Chirac. Mais à travers ces 36 Chirac qui vole au vent ou qui écoute des sondages alors qu'il les a lui-même fabriqués, qu'il les a fait fabriquer, alors il a tort de se confier à des sondages. Il y a tout ça. C'est vraiment pas un homme d'État, c'est vraiment pas un chef politique, ça certainement pas. Oui, mais il est dangereux.
Il a quand même pris une décision qui est quand même très grave, c'est d'envoyer des pioupiou, avec tout le respect que j'ai des pioupiou, en Afghanistan. Du reste, ils ne sont pas en Afghanistan. Ils sont bloqués. Ils sont bloqués à la frontière avec leur boîte de conserve.
Oui, mais alors c'est là.
C'est une erreur considérable qu'a fait le président de la République d'engager une partie de nos soldats sur ce territoire.
Mais il a fait une erreur considérable, il a fait une erreur beaucoup plus grave quand il a voté pour Maastricht.
Mais là, il y a un côté, il y a le ridicule du personnage que
il a fait le regroupement, si vous voulez, les erreurs auxquelles il a participé. La loi sur l'avortement. La loi sur le regroupement familial le regroupement familial qui est une bonne chose en soi. Mais le regroupement familial, il fallait le faire chez nous. Bien sûr qu'on est pour le regroupement familial. Mais pas chez nous. C'est lui qui a fait la loi pour le regroupement familial. Et on peut en aligner beaucoup de choses comme ça. C'est lui qui a laissé passer des lois socialistes qu'il aurait pu retarder ou refuser. La loi Guigou, c'est lui.
Et la tiers-mondisation des personnels dépendants de la mairie de Paris de 1977 à 1995.
Malgré l'odeur et le bruit dont il a parlé aussi.
Mais bon, pour Chirac, j'avais
Chirac, il y a pas de question, mais simplement je dis que malgré toutes ses erreurs, il est dans l'ordre électoral qui la bonne électorale n'a pas grand-chose à voir avec la vérité et le bien de ce qu'on a fait, des bilans, etc. La bonne électorale, il s'est toujours montré dangereux. Et puis, il s'est montré quelquefois nul dans ses appréciations, parce qu'on n'est jamais infaillible. Le coup de la dissolution. Quelle connerie.
Oui. Non, je ne crois pas. Moi, je suis certain qu'il l'a fait de façon complètement consciente, parce qu'il ne voulait pas s'emmerder à diriger un pays qui est indirigeable. Il a dit, moi, je vais garder le fauteuil à l'Élysée, je serai tranquille, les voyages à la Réunion et les fonds secrets, et puis Jospin va se taper le sale boulot.
Les fonds secrets qui ont augmenté de 409%. Oui. Depuis 1995.
Depuis que le président de la République ne fait plus rien à cause de la cohabitation, il a besoin d'occuper ses loisirs. Alors ça fait des fonds, ça.
Vous vouliez nous dire quelque chose sur Chirac?
Oui, une anecdote que m'avait rapportée un de mes amis industriels qui avait rencontré Jacques Chirac en 1969, à l'époque où il était ministre de l'Agriculture. Et donc c'est un industriel qui est dans les engrais. Et il m'a dit, quand j'ai vu Chirac, il a dit, j'ai eu un avis définitif sur le personnage qui s'est confirmé par la suite. Il dit, Chirac est con comme un jeune chien. Vous savez, un peu comme ces petits chiots qui jappent partout, qui mordent, qui
font les pires. On voit ce que c'est qu'un jeune chien, mais enfin, c'est plutôt...
C'est plus un jeune chien maintenant, un chien galeux.
Bien. Donc, alors, pas Chevènement, pas Chirac.
Non, mais je crois, on reviendra sans doute à l'Afghanistan tout à l'heure, mais je crois qu'il faudrait sacrifier quand même à la grande question du jour, comme nos évêques et comme Télérama, c'est le Ramadan. Une fête pour tous.
Oui, oui. J'écoutais l'autre soir Radio Beurre, justement, et alors il y a une jeune femme qui est passée, très 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 politiquement correcte, en disant « et je souhaite à tout le monde un bon ramadan, aux musulmans comme aux non-musulmans ». Et puis juste après, il y a un imam qui a pris la parole. Alors, j'ai bien aimé l'imam parce que lui, c'est pas le genre qui mâche ses mots. Il a dit, voilà, il parlait un français absolument parfait d'ailleurs, avec juste la toute petite pointe d'accent des intellectuels maghrébins. Et il a dit, j'ai entendu cette dame, c'est très intéressant, mais vraiment, souhaiter un bon ramadan aux non-musulmans, ça n'a aucun sens. Les non-musulmans, on s'en fout. Voilà, c'est seulement ce qu'il a dit. Donc c'est bien clair.
Il paraît qu'il a tout à fait raison.
Il a tout à fait raison, bien entendu. Mais il n'y a que nos...
Nos évêques et nos bobos qui vont, qui passent leur nuit en ce moment dans les bistrots kabyles ou autres, parce que c'est tellement festif que notre Noël est tellement plus spontané.
Noël, c'est pas une fête qui se passe dans les bistrots maghrébins. Ça, c'est clair.
Ni même en principe dans les bistrots d'ailleurs.
Ni même dans les bistrots. Est-ce que vous avez suivi? Je m'adresse plus particulièrement à Jean Madiran. Est-ce que vous avez entendu le souverain pontife qui appelait à une nouvelle réunion d'assises?
Je ne l'ai pas entendu personnellement, mais il fait une nouvelle réunion d'assises.
Le 24 janvier.
Oui, il l'a fait. Il l'a annoncé.
Il l'a annoncé. Mmh. Il a demandé aussi, d'ailleurs, à propos de Ramadan, il a demandé aux catholiques de prier tous ensemble pour la paix le 14 décembre, qui se trouve être le dernier jour du Ramadan. Voilà. C'est certainement pas par hasard. Donc, je voudrais rappeler au pape, enfin, s'il m'écoute, je lui rappelle quand même que le 14 décembre, on sait dans ce qu'on appelle le petit carême, et qu'on n'a pas besoin d'imiter les musulmans pour jeûner pendant le carême. En plus, le jeûne du Ramadan, c'est une donade. Parce que c'est un jeûne la journée. La nuit, on peut s'en enfiler jusque par-dessus la tête, on peut bouffer comme un cochon, enfin, pas pour un musulman d'ailleurs, comme un veau européen, comme disent, vous savez que les musulmans qui mangent du porc en France, ils appellent ça le veau européen.
Ah.
Oui. Évidemment, c'est plus facile. Et donc, on peut manger
c'est comme les Serbes qui appellent le Chlivovitz le thé de la Choumania.
Exactement, c'est ça. Voilà. Donc, un commentaire sur le nouveau projet d'assises. Comme ils viennent de terminer les travaux de réfection après le tremblement de terre de 96, je crois, ou 97, il y a peut-être...
Mon respect pour la fonction du Saint-Père ne me pousse pas à commenter un point particulier.
Donc, même si le Saint-Père vous dit qu'il n'aime pas les nouilles à la tomate, vous arrêtez d'en manger.
Ah, mais là, c'est beaucoup plus grave que d'aimer ou de ne pas aimer les nouilles à la tomate. C'est beaucoup plus important et c'est c'est sur un tout autre plan.
Oui, mais c'est pour ça que j'attendais quand même que... Ça vous emporte pas, cette nouvelle? J'ai pas dit transporter, j'ai dit emporter.
Mais vous en faites une question personnelle alors que...
Ça devrait être considéré,
comme vous pouvez fort bien le faire, sur le plan de la, de l'opportunité. De
c'est, la ça, mais c'est pour ça que je me tourne vers quand même l'homme qui a été le fondateur d'Itinéraire, qui était le référent de la pensée, enfin un des référents de la pensée catholique en France pendant de longues années. Donc moi, quand j'entends ça, je crois que je vais m'évanouir d'horreur, parce que ça va, ils vont recommencer leur simagrée avec des musulmans, avec des juifs, avec des bouddhistes, avec des adorateurs de l'oignon, des sectateurs du serpent et tout, tout ça sous la houlette du souverain pontife, je trouve. C'est
à l'initiative du souverain
pontife. À l'initiative, oui. Non, pas de commentaire.
Il fait une politique religieuse qui n'engage pas la foi.
Oui, c'est ça. C'est
un... Non, mais par exemple, le nouveau président, enfin, je sais pas. Le nouveau président des évêques de France, monsieur Ricard, a donné une interview à La Croix, où il dit que, bien sûr, ils ont beaucoup de respect pour les musulmans, etc. Mais enfin, il précise quand même que tant qu'il n'y aura pas d'église en Arabie Saoudite et dans ce genre de pays, la réciprocité ne s'appliquera pas.
Il
peut y avoir des opérations.
Mais le pape est d'accord.
Mais la foi n'est pas
tout à fait.
Je pense pas que la foi soit engagée.
Oui, la foi n'est pas engagée sur un autre plan. C'est tout ça, c'est ça, tout à fait sur un autre plan. C'est le plan d'une certaine diplomatie religieuse qui ne met absolument pas en cause la foi et qui a le risque très grave mais il prend des risques. Celui qui prend des risques, il les assume, d'être politiquement très mal interprété. Quant à Mgr Ricard, qui était donc vice-président et qui se trouve président c'est quand même un renouvellement. Mgr Ricard, il y a quelques jours, ça ne vous a pas échappé avec votre information précieuse. Il était au Barou. Il a ordonné deux diacres au Barou.
Qui est le nouveau président de la conférence épiscopale.
Il a également eu cette formule que j'ai citée, mais sans dire que c'était de lui, parce que c'était juste avant son élection. Je ne voulais pas même faire tirer de manière imprévue que l'Église, l'Église souffrait d'une paralysie de l'appel. Je ne dis pas que tout ça, ça contient tout, mais c'est quand même sur le plan proprement religieux, une paralysie de l'appel. Il y a des choses qui sont. Maintenant, d'autre part, il faut pas, même serait-ce, d'abord je ne le connais pas autrement, et serait-ce le meilleur évêque que la France ait eu, il a un drôle de boulot avec l'épiscopat tel qu'il est. Car l'épiscopat tel qu'il est, majoritairement, il pense à gauche, il pense moderniste, progressiste, et athée, sans s'en douter, sans le savoir. Quand l'épiscopat dit, pour participer, une chose extraordinaire, vous comprenez, si on la regarde de près, quand l'épiscopat français, l'épiscopat, la déclaration de l'épiscopat, parce qu'il faut éviter le choc des civilisations et le choc des cultures, quand l'épiscopat dit que la division du monde, elle est entre riches et pauvres, plutôt qu'entre culture et religion. Ils ne se rendent pas compte qu'ils font une profession de matérialisme radical et même de marxisme quand ils pensent que le niveau de richesse est une division plus grande que la diversité de religion.
C'est le matérialisme historique.
C'est le matérialisme, mais oui, c'est le matérialisme historique. Alors, c'est l'épiscopat français, en l'occurrence, c'est une phrase de l'épiscopat français dans leur truc, pour participer, comme le gouvernement, comme les autres, comme les médias, à dire non, pas de choc de civilisation. Ils pourraient dire pas de choc de civilisation, s'ils peuvent pas, comment, ils disent ce qu'ils veulent. Mais, alors eux, ils ont l'air, c'est parce que la vraie division, ce qui compte le plus, c'est la division entre riches et pauvres. C'est exactement la dialectique marxiste. Ouais. La dialectique marxiste-léniniste. On est dans la dialectique marxiste-léniniste. Ils ne se rendent pas compte. Voilà. Alors, comprenez, c'était plus que voir.
Bon, donc, pas d'autres commentaires que ça. Oui. Les épiscopats est devenu marxiste.
Non, mais je pense que nous devons tellement de choses au pape, de choses positives au pape Jean-Paul II. Et notamment, on lui doit dans cet univers médiatique une présence médiatique du pape en tant que pape, qui fait que les catholiques...
Ah, c'est sûr.
Et que ça, actuellement, hein, depuis 20 ans,
c'est sans cette, ce charisme particulier, c'est pas la seule chose que nous lui devons est excellente. Il a l'encyclique Fides et Ratio, si ça vous intéresse, Serge, lisez ça. C'est vraiment, véritablement la grande tradition de la philosophie chrétienne.
Je crois que c'est un bon philosophe.
Et déjà l'encyclique avant, Splendor Veritatis. Non, mais enfin, pour ne prendre que ça, disons, puisque c'est le plus simple et ce qui peut marquer les gens, si le catholicisme a encore figure dans cet univers médiatique, c'est grâce à Jean-Paul II. Et là, hein, et c'est sa présence médiatique et les rassemblements qu'il fait de la jeunesse. Alors on dira, mais vous savez, ceux qui viennent là, ils sont pas convertis du tout, etc. Mais c'est pas la question. Qui fait des rassemblements semblables?
Oh ben, n'importe quelle idole du rock'n'roll.
Non.
Mais 100 000 personnes. Non,
mais sur le plan politique, sur le plan politique ou religieux.
Oh ben, oui, bien sûr.
Ah oui. Qui fait des rassemblements semblables? Il y a là une, c'est pour ça que, alors un pontificat, beaucoup de pontificats, même la plupart des pontificats ont leur somme de d'erreurs.
Tactique. Enfin, je trouve que s'il s'appuie sur ce bilan positif, globalement positif, comme vous le dites, et sur les foules qu'il rassemble, pour les foules de jeunes qu'il rassemble, s'il s'appuie là-dessus pour réunir, pour prier, non pas ensemble, mais en même temps, tout ça au prix d'une dialectique complètement torsifélée, des musulmans, des juifs, des bouddhistes, et encore une fois des adorateurs de l'oignon, des sectateurs du serpent et tout, moi je me demande quel est le bénéfice de toute cette opération. Car ça revient à dire, tous les dieux se valent, quoi. Le dieu des chrétiens, et puis le dieu des bouddhistes, et puis ou les dieux des bouddhistes, les dieux des confucianistes et tout. Oui, tout ça c'est la même chose que l'on prie.
C'est vous qui dites que ça revient à dire ça.
Ah oui, ça revient.
Moi je crois que l'idée qu'il se fait de la chose, c'est que qu'il montre qu'il fait là quelque chose que seul le pape peut faire.
Bon, acceptons-en l'augure, en tout cas.
Oui, alors, seulement la première réunion d'assises, je dois dire que j'en vois pas.
Les fruits. Si, il y avait un tremblement de terre 10 ans plus tard. Donc,
oui.
La colère, Dieu est lent à la colère.
Je ne défends pas ça. Moi, je ne suis pas du tout. Je préférais qu'il y ait de sentiments personnels, mais je ne suis pas en charge du gouvernement de l'Église universelle. De un sentiment personnel, je préférais qu'il n'y ait pas assise, mais ça ne veut pas dire que pour ça que j'ai raison.
Je pense que ça ajoute, comme le disait Serge, au confusionnisme qui est la tare totale de notre époque.
Vous avez tout à fait raison quand vous dites il n'y a que le pape qui peut faire ça, parce que bien évidemment on peut pas imaginer une seule seconde, mais pas une seule seconde, que un très haut dignitaire d'Arabie Saoudite dise écoutez, on va réunir toutes les religions du monde pour prier à la Mecque, pas prier ensemble, non, prier en même temps, chacun son dieu, ça n'est pas envisageable. Bon, je trouve au moins que, Dieu sait que je suis pas musulman, mais je trouve au moins les choses sont claires. Ces gens-là disent, si vous voulez prier avec nous, vous devenez comme nous, vous devenez des musulmans. Si vous ne voulez pas prier avec nous, c'est votre problème. Alors ça, c'est l'islam libéral. Faites ce que vous voulez, tant pis pour vous. Et puis alors, l'islam moins libéral, c'est si vous voulez pas prier avec nous, on va vous couper les oreilles en pointe. Et encore, je suis probablement très au-dessus de la vérité. Et puis voilà, fin du débat. Je ne dis pas que le pape devrait couper les oreilles en pointe des gens.
Je pense qu'effectivement, je ne nie pas que les inconvénients des réunions d'assises, mais enfin, il ne le fait pas pour les inconvénients non plus.
Alors voilà, bravo à la personne, c'est Jean Madiran qui prend la défense de notre pape contre les inepties de Serge Dabiquech sur la réunion d'assises. Monsieur Madiran, alors là, ça nous emmènera un petit peu loin. La prière commune du pape avec les zoroastriens engage-t-elle, à votre avis, l'Église? Je crois que vous dites non. C'est pas une prière commune.
Mais c'est pas une prière commune.
C'est une prière en même temps. Vous n'avez rien compris à l'esprit d'assises. Non, mais ça, c'est le réflexe dont je parlais tout à l'heure, toute proportion gardée à propos du général Gallois. C'est la papolatrie. C'est-à-dire, à partir du moment où c'est le pape, tout ce qu'il fait est bien, il a forcément raison en tout. Et je suis désolé. Je suis pas de cet avis. Pas plus que le général Gallois. Pas plus que ma tendre épouse que j'aime profondément.
Non, mais ce
a tout
y
le
y
temps
a,
raison.
Serge,
il y a des gens qui ont tort de temps en temps.
Serge, le général Gallois a droit au respect militaire, vous comprenez, et aux honneurs militaires. Mais le pape, pour un catholique, même s'il fait des choses que l'on réprouve, il a droit au profond respect des fidèles.
Mais qui a dit que je respectais pas? Je respecte, mais je dis, je suis pas d'accord, je trouve que c'est criminel, voilà, je le dis parce que je le pense réellement. C'est une, voilà, ce genre de, vous n'avez rien compris à l'esprit d'Assise.
On ne peut pas
le
dire.
Le pape demande à tous ceux qui sont croyants de prier chacun leur Dieu. C'est ça qui n'a pas de sens.
Je crois qu'Assise ne doit pas être vu du point de vue catholique, mais tel qu'il est ressenti à notre époque, dans le village global.
Eh bien,
dans le village global,
c'est mal ressenti.
Il est ressenti comme une abdication totale.
Dans le village catholique, il n'est pas forcément bien ressenti.
Mais Jean, on va pousser la chose à l'absurde. Imaginez que, en plus de toutes ces religions de guignols, quoi, de pantins qui n'existent pas, etc., ou qui sont des fausses religions.
Ne dites pas trop de mal du zoroastrisme. Oui, qui ne nous dérange pas beaucoup maintenant.
Pour l'instant. Bon. Mais imaginez que d'un seul coup se réveillent en Amérique du Sud des gens qui disent, écoutez, nous, la religion du soleil, voyons, on a recommencé, et nous, notre façon de prier, c'est qu'on égorge des bébés, hein, ou des adolescents, ou des jeunes filles, on leur arrache le cœur.
Ça commence au Pérou.
Au Pérou, exactement.
Au Pérou, où le président a été, après que le Tédéum, je croyais que Emmanuel voulait en parler tout à l'heure, et on en revient à ce confusionnisme abominable qui me semble marquer notre époque, qui immédiatement, après le Tédéum célébré pour son élection, il est allé sur le Popocatépetl ou je ne sais quel sommet pour la cérémonie au dieu Apu, en Quechua, et comme lui évidemment ne parle plus très bien le Quechua, bien qu'il soit indien, c'est sa femme ethnologue
allemande,
belge et juive, devenue d'une famille juive allemande, qui a récité en Quechua l'invocation au dieu Apu. Voilà, pour moi, c'est la traduction temporelle d'Assise.
À ça, vous ajoutez un président de la République qui s'appelle Chevènement et vous avez tout gagné, quoi. On est dans le fin fond de la confusion grotesque, voilà, ce que je pense. Même si c'est le pape qui décide ça, ça ne me fera pas changer d'avis. Voilà. Des auditeurs nous demandent de parler du troisième aéroport. Est-ce que
je fais l'éditorial là-dessus.
Alors oui, même aussi. Tiens, c'est curieux.
Les grands esprits, Serge.
Il y a quatre villages qui vont être détruits.
C'est ça qu'il faut. Donc en manchette dans le numéro qui paraîtra vendredi avec deux dessins assez étonnants de France de Char.
Ils sont pas bons?
Oh, ils sont,
Alors, ils sont pas étonnants. Ce qui est étonnant avec un dessin de chance, c'est quand il est mauvais.
Mais c'est tellement rare à ce moment-là. Ça s'appelle Troisième Aéroport, un crime contre notre mémoire. À qui profite le crime contre notre mémoire? Puisque, on sait que non seulement, on va sacrifier quatre villages les cimetières, tous les cimetières de la bataille de la Somme qui avaient quand même fait 1,3 million de morts en quelques mois, ce qui est absolument invraisemblable. Et ce qui m'a frappé, c'était que le même jour, j'ai lu le matin dans le Figaro, lundi dans le Figaro justement, sur le sacrifice des ossuaires et des cimetières militaires, non seulement français, mais de tous les belligérants de la Première Guerre mondiale, et l'après-midi dans Le Monde, où, à propos de la découverte, paraissant d'ailleurs assez extravagante, de la première chambre à gaz d'Auschwitz, moi qu'on m'avait dit à Auschwitz, d'ailleurs on ne l'avait pas du tout situé là, le guide d'Auschwitz, dont il se trouve qu'il a été quelques années plus tard le guide de Monsieur Chirac à Auschwitz, m'avait tenu des propos totalement différents. Alors j'aimerais savoir si c'est Monsieur Stanjic qui se trompait ou si c'est Le Monde. Bon, mais à propos de cette affaire, on disait que justement il était absolument que le théâtre de ce qui fut le plus grand crime de l'humanité devait rester, bénéficier d'un total respect. Et sans qu'on construise un supermarché, une discothèque ou n'importe quoi. Alors je trouve quand même, je vous dis à trois heures d'intervalle de lire
ça.
Les deux choses est profondément déchirant quand même, que nos ministres et le chef de l'État qui n'a pas dit un mot, alors que c'est une entreprise communiste.
Oui.
Une entreprise communiste qui va détruire des emplois parce que l'industrie agroalimentaire a averti qu'elle serait obligée de délocaliser en raison des nuisances que provoquera le trafic de l'aéroport. Et alors on nous dit ça, on créera des emplois, mais chacun sait que les travaux de terrassement, puisque les immigrés de la deuxième et de la troisième génération, de même d'ailleurs que les de souche, ne voudront pas les faire, ce qui signifie que ça va se traduire par un appel massif à des Marocains et à des Turcs qui, grâce au regroupement familial dont parlait Jean tout à l'heure, s'installeront de manière permanente. Donc la Picardie, privée de sa mémoire de la Première Guerre mondiale, sera également privée de sa mémoire par une population halogène encore plus forte qu'elle ne l'avait connue. Pour moi, c'est vraiment... Cette histoire du troisième aéroport est un crime.
Oui.
Alors même que Lufthansa débauche et qu'American Airlines débauche, que tous les achats d'avions, aussi bien Boeing qu'Airbus, sont revus à la baisse.
C'est pour ça qu'il faut probablement...
Donc cet aéroport en plus est
comment,
inutile.
Comment, Lufthansa débauche, vous avez dit ?
Non, mais je m'étonne que d'entendre Camille dire Lufthansa, c'est débauche.
Oui, c'est vrai, je trouve ça assez déplacé.
Et alors, qu'est-ce que vous dites dans votre éditorial, Serge ?
C'est pas moi qui l'ai fait, c'est François Touvenin, qui est un collaborateur épisodique mais talentueux du Libre Journal, et qui dit... Il le dit d'une façon assez drôle, c'est intitulé Aéroport et cochon de payant. Aéroport, oui. P-O-R-C-S, bien entendu. Et il dit, une fois rasé quelques douars, après l'Euro Disney, on va nous jouer Crashland dans le pays gaulois. Une fois rasé quelques douars sans intérêt car peuplés d'indigènes, les bétonneurs à grosses mâchoires, aidés de leurs zélés salariés politiciens, vont le booster et le faire juter grave le prix de l'hectare à betterave ou à squelette roast beef. C'est affiché, bonnes gens. Encore les expropriés ne seront-ils pas les plus à plaindre, malgré le déracinement forcé dont on va les dédommager avec des clopinettes. Les futurs riverains de Crashland, eux, auront le droit de rester otages du bruit infernal avec des chances sérieuses qu'un jumbo détourné par les fous d'Allah vienne un jour fumer gratis leurs plants de pommes de terre à la tripaille d'eurocrates, de gros ports, de bobos et de chance pour la France. Qu'est-ce qu'on a bien fait d'éjecter les boches de la Somme ? Car exactement ça. Alors il y a des milliers de soldats qui ont laissé leur vie pour qu'aujourd'hui ça soit transformé en patinoire à zinc pour transporter, comme le dit Touvenin, soit des eurocrates, soit des amateurs de viande fraîche thaïlandaise. Ce qui fait quand même l'essentiel des gens qui prennent...
Et puis ils ne prendront pas cette destination-là, qui est la plus éloignée de la
capitale. À 120 km
non, mais
de
moi,
Paris.
Je vous avoue, je crois que vous inquiétez pour pas grand-chose, parce qu'à mon avis, ça ne se fera pas. Exactement comme le troisième aéroport, ils avaient déjà voté, mais c'était la majorité en 95 qui avait voté ça, et ça devait être plutôt
de Chartres.
Ils avaient voté, et la gauche avait dit, si on revient au pouvoir, on rediscutera la chose. Et là, dès que ça a été voté, les députés RPR et UDF ont dit, si on revient au pouvoir l'année prochaine, on supprime cette tentative d'aéroport.
Comme, on peut y compter, comme Jacques Toubon avait dit.
Oui. Les colonnes de Buren.
Non, comme Jacques Toubon avait dit.
Ah oui, la loi.
La loi Guesso,
L'aéroport Guesso, comme la loi Guesso.
La droite.
Je crois qu'il est plus facile de revenir sur la position d'un aéroport, l'emplacement, que sur la loi.
Mais ils avaient parlé contre, ils avaient voté contre. C'était tout à fait normal qu'ils la supprime. Et c'est Annick Riegel qui leur a jeté à la figure qu'ils étaient.
Mais j'ai peur que le lobby soit moins puissant, donc on pourra revenir plus facilement dessus.
Oui, je pense. Il y a peut-être un événement. On parle de lois qu'il faut défaire ou refaire, défaire. C'est la loi Guigou à l'heure actuelle. On n'a pas parlé des événements qui se passent. Aujourd'hui, entre autres,
des grèves des policiers à très haut niveau et tout, et il y a des mouvements dans la gendarmerie. Moi, ce que je voudrais vous demander autour de cette table, est-ce que Monsieur Vaillant ne devrait pas donner sa démission?
Il est
contredit par ses propres troupes, par son état-major. On va changer la Guagigou, on revient en arrière. C'est un problème très grave, parce que là, si la police ne fait plus son boulot...
Jean-Claude, je crois qu'il y a deux questions. La première question, effectivement, c'est le caractère totalement grotesque de cette affaire de la loi Guagigou. Elle a été votée il y a combien de temps? Il y a quelques mois.
Donc
il vote une loi, il l'applique, et oh bon sang, ça marche pas. On efface tout et on recommence. Enfin, ces gens-là sont des incapables.
On fait un audit, attention. On ne croit pas qu'on l'abrogera.
En tout cas, ils disent maintenant qu'ils vont l'abroger. Donc ça veut dire qu'ils n'avaient pas mesuré.
L'amender.
Ça veut dire qu'ils n'avaient pas mesuré les conséquences de leur décision.
Ils les avaient mesurées, parce qu'il s'agissait d'éviter l'emprisonnement à tous les copains qui étaient poursuivis pour des affaires de fonds, de machin, etc.
C'était superflu, puisqu'il les acquitte.
Parce qu'il est évident qu'il voulait empêcher la justice de fonctionner contre eux. Et il se trouve que la justice est empêchée de fonctionner aussi dans d'autres histoires beaucoup plus graves qui font le mécontentement ou la crainte, la peur de la population. Les maires tous réunis là qui disent que le problème numéro un maintenant c'est véritablement la sécurité, malgré le juste anathème lancé par Camille contre l'emploi du terme insécurité là où on devrait dire criminalité, hein, et il se trouve en face de ça, et voilà. Mais ça, ils n'avaient pas pensé. À l'abri des phénomènes de criminalité, ils ont pensé longtemps, et ils pensent encore un peu, que c'est l'extrême droite, ça. Ou que de trop en parler, ça va faire le jeu de l'extrême droite, comme ils disent. Mais quand ce sont même le syndicat de la magistrature, leur syndicat, de gauchistes, de marxistes, etc. Le syndicat de la magistrature, comme les autres syndicats de magistrats, est contre la loi Guigou. Oh.
Mais si les policiers sortent plus de leur commissariat demain, qu'est-ce qui va se passer? Ils ne sortent déjà plus.
Ils sont assiégés. Mais actuellement,
ça fait très longtemps qu'ils sortent.
Actuellement, on est en train de travailler pour défendre la police, pour la sécurité de la police. C'est-à-dire que ceux qui devraient nous défendre, c'est eux qu'il faut défendre. Et en plus, ils nous donnent pas les moyens de former nous-mêmes les milices qui pourraient défendre notre police.
C'est quand même très grave, moi.
C'est un phénomène anarchique, vous comprenez.
C'est même la police qui devient anarchiste.
Mais c'est pas nouveau.
Mais c'est la situation qui est. Mais la police, attention, la police. Non. La police, ça fait 20 ans que dans la ça fait. 20 ans. Que dans la police, les promotions, les recrutements, et ça sont aux mains des socialistes.
Et maintenant, depuis des années, on le voit avec les adjoints de sécurité, maintenant, ils font ce qu'on appelle du recrutement. Ils font du recrutement citoyen.
Sont aux mains des francs-maçons de gauche.
Voilà.
Au lieu des aux des francs-maçons de droite.
Excusez-moi, mais là, on suit plus du tout, hein.
Comment vous suivez plus du
tout? Non, comme tout le monde parle en même temps, on suit plus, je vous assure, Jean.
Mais il y a vous, moi qui parlez, personne ne parle en même temps.
Si. Ratier est intervenu, et Marie-Camille aussi. Donc, vous avez la parole, Jean. Allez-y.
Eh bien, je dirais seulement que dans tout ça, le phénomène le plus grave, c'est le sentiment d'impunité. Il n'y aurait même pas besoin d'augmenter les effectifs et les moyens de la police. Si on faisait tomber quelques têtes, il n'y a qu'à voir comment la police traditionnelle du temps de Richelieu, par exemple, procédait avec très peu de gens et quelques peines exemplaires. Parce que ce qui aide beaucoup au sentiment... À la montée de la délinquance, avec toutes les questions ethniques que l'on connaît, mais c'est le sentiment d'extraordinaire impunité. Et on le voit quand ils sont jugés, ils disent, mais comment? Quoi? Alors on veut me punir? Voilà. Un très grand sentiment d'impunité. Mais quant alors au phénomène des manifestations des policiers, les gendarmes, ce sont les femmes de gendarmes qui s'expriment, mais quand elles racontent que les gendarmes, aujourd'hui, pour un corps de 10 gendarmes, il y a un ou deux gilets pare-balles, vous comprenez? Enfin, quoi, et probablement...
je suis d'accord avec vous, mais je voudrais quand même rappeler qu'il fut une époque où les policiers qui circulaient à bicyclette n'avaient même pas un revolver sur eux. Ils avaient leur pèlerine et un bâton de police, et ils étaient respectés.
Parce qu'il n'y avait pas le sentiment d'impunité.
Voilà, le fait même qu'on puisse... trouver nécessaire de protéger les policiers par des gilets pare-balles, c'est aberrant. Parce que d'abord, il faut souhaiter que les tueurs ne visent pas la tête. Oui. Sauf erreur de ma part, un gilet pare-balles ne protège pas la tête. Moi, je fréquente assez peu de tueurs, je n'ai pas trop confiance dans cette hypothèse-là. Je crois qu'ils tirent comme ils peuvent et que ça peut être... Bon.
En tout cas,
le fait est que maintenant, c'est tout à fait naturel qu'on est en face d'un flic, on sort son flingue, on le bute, voilà. Oui. Et si le flic n'a pas de gilet pare-balles, ben, c'est pour ses pieds, c'est tout. Mais si le flic, lui, tire sur le voyou et le blesse au gros orteil... Alors là, mes amis,
parce que eux, ils savent en plus qu'ils sont protégés contre les éventuels tirs de la police. Donc, et que c'est le policier qui a tiré, qui sera bien examiné.
Alors, ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, c'est Vaillant, Jean-Claude Varane voulait la démission de Vaillant. Ça changera rien. C'est tout le système. Il faut appliquer la loi, c'est tout. Marie-Camille.
Oui, à propos des gilets pare-balles, justement, le Front National faisait remarquer dans un communiqué que dans la tuerie qu'il y a eu lors des convoyeurs de fonds qui ont tiré sur les malfaiteurs, et l'un des malfaiteurs a été tué, bien qu'il eût un gilet pare-balles que porte d'habitude la police. Donc, ça n'est pas non plus la panacée.
Je crois qu'il avait été écrasé par le camion de Brinks.
Il y a eu un communiqué du front.
Emmanuel.
Mais c'est la forteresse et le cadran. Plus on fortifie la forteresse, plus on augmente le canon. Et puis voilà.
La flèche est pliée.
Emmanuel,
vous savez que de toute façon... Vous allez me dire que c'est un truisme, mais ça ne va pas aller en s'améliorant, puisque le nouveau spécialiste en matière de sécurité, parce qu'on dit Vaillant démissionne. Bon, alors qui deviendrait ministre? Bon, il y a le secrétaire national à la sécurité du Parti socialiste qui est chargé de rédiger la partie sécuritaire, entre guillemets évidemment, du projet de présidentiel de Lionel Jospin. C'est Julien Dray.
Oui, c'est ce que prétend le Gallou.
Ah non, mais c'est pas ce que prétend le Gallou. Ça fait six mois qu'il est secrétaire national du Parti socialiste à la sécurité, qu'il a rédigé un certain nombre de textes, et que c'est effectivement lui qui est en train de rédiger le programme de Jospin. Bon, Julien Dray, c'est quand même l'ancien responsable étudiant de la Ligue communiste révolutionnaire. Bon, donc c'est quand même absolument extraordinaire quand on sait tout ce qu'a fait Julien Dray avant, son pédigré, ses attaques, ses attaques contre la police, etc. Ça n'a jamais été comme Vaillant. Non, non, c'est quand même quelqu'un qui vient de la Ligue communiste. Ce sont vraiment des destructeurs dans l'âme. L'accélération.
Avec un frère responsable du Bétard.
Oui, installé en Israël, etc.
Mais justement, le fait que le frère soit responsable du Bétard donne une très grande impression d'autorité et d'admiration de la force. Et puis Trotsky, après tout, venait de l'extrême gauche aussi. Et Jules Moc n'a pas été un mauvais ministre de l'Intérieur.
Enfin, cela dit, je crois quand même que si Dray devenait ministre de l'Intérieur, là, pour le coup, on aurait vraiment des soucis à se faire. Parce que Vaillant, c'est un incapable, donc on peut passer entre les mailles du filet. Dray, je le soupçonne d'être plus redoutable, lui.
Mais, du reste, il n'y a qu'à lire dans National Hebdo cette semaine l'article de Michel Limier, Julien Dray, le diafoirus de Jospin.
Décidément, ce Limi a beaucoup de publicité ce soir.
Beaucoup de flair.
Beaucoup de flair, certainement.
On devrait peut-être quelquefois l'inviter.
Oui, bon, non, on ne peut pas multiplier non plus les invitations. Oui, oui. Pas... Tiens, à propos, d'ailleurs, à propos de bottes, vous avez remarqué, naturellement, je n'ai pas pensé à la saluer tout à l'heure au début d'émission, l'absence de Claude Giraud, qui n'est pas parmi nous. Ça devient une mauvaise habitude. Parce qu'elle a ce soir une réunion, non pas de bouclage, mais de rédaction, et que je crois elle a son émission demain, et elle ne veut pas infliger sa présence deux fois de suite aux auditeurs, ce qui honore sa discrétion, mais ce qui nous navre.
Elle nous plonge dans la désolation.
Dans la désolation, voilà. Je voulais vous interroger sur l'affaire des, enfin l'affaire, sur le sondage qui semblerait indiquer que, avec toute la réserve d'usage quand on parle de sondage, que 70% des maires français refusent de donner leur signature à d'éventuels candidats au présidentiel. Est-ce que vous avez vu ça ?
Oui.
Il y a même des maires qui ont fait une déclaration sur une chaîne de télévision, je ne sais plus laquelle, maire qui était interviewé justement à la porte de Versailles, je crois qu'il était à la porte de Versailles, ben disant c'est... nous ne voulons pas faire de politique. Alors je trouve ça très drôle de la part d'un maire de dire je ne veux pas faire de politique, parce que c'est une façon quand même de faire respecter la démocratie, que un maire puisse donner sa signature à un candidat à la présidence de la République. Je crois que c'est la moindre des choses d'un maire de le faire pour faire valoir la démocratie en France.
Enfin, quand même, faudra-t-il
70%, j'en crois rien du tout, parce que de toute façon, c'est toujours pareil. C'est que s'ils ont trouvé un chiffre comme de cet homme-là, ils devraient dire entre 65 et 75%, quelque chose comme ça, des maires. Voilà. Bon, donc déjà, le chiffre est faux. Mais il y a un sentiment très, très compréhensible, puisqu'on voit bien qu'il y a des pressions en sens divers, hein. En sens divers, ne donnez pas votre signature à ceci, donnez votre signature à cela. Alors, il y a des braves gens qui... Un grand nombre de braves maires, je suppose, qui disent, écoutez, hein, on a plein la tête des pressions, moi je ne signe pas. Avec la politisation de la présidentielle, avec la publication des noms, avec le fait que les adversaires publieront les noms. Le maire.
Ils ne sont pas tous publiés, attention. Les signatures des oui. maires, les 500 signatures d'un maire oui. qui vote pour un candidat, oui. n'est pas. Pratiquement une loterie sur l'ensemble, et il n'y a qu'une quantité de maires qui sont cités au journal officiel.
Non, c'est pas ça.
Ceux qui peuvent se présenter.
Il y en a 500 qui sont cités.
Voilà.
Voilà. Oui. Conseillers régionaux, députés, sénateurs, conseillers généraux, conseillers régionaux ou maires. Bon. Et les 500, effectivement, pour chaque candidat qui a été retenu, parce qu'effectivement, c'est une loterie, mais la loterie n'est pas décidée pour la publication. En fait, la loterie, elle est décidée, je crois, par le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel, retienne 500.
Dans 30 départements.
Bon. Et puis, il faut vérifier, effectivement, qu'ils soient répartis sur tout le territoire, qu'ils n'ont pas signé pour d'autres personnes, parce que ça s'annule, toute une série de choses comme ça. Mais ce qui est absolument vrai, c'est que depuis une ou deux présidentielles, les noms sont publiés.
Oui.
Alors, si vous votez, si vous donnez votre signature à Brice Lalonde ou à même Corinne Lepage, ça vous pose pas de problème, a priori, parce que vous l'année, j'ai même pas jusqu'au vert. Mais quand vous commencez à donner votre signature pour Jean-Marie Le Pen, Bruno Maigret, ou Arlette Laguiller, pour prendre un peu les extrêmes du paysage politique, quand on publie les noms, il est évident que vos adversaires peuvent s'en servir en disant, vous voyez, c'est un suppôt de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, et ils ont plus de mal, effectivement, à se faire réélire.
Le maire, il a au moins un adjoint qui, aux élections suivantes, dit, on peut pas garder ce maire qui a compromis
notre commune.
L'image de la commune.
Surtout quand on a des organisations comme Ralfron, qui écrivent personnellement à chaque maire qui avait signé pour Jean-Marie Le Pen, et s'emploient à faire du battage dans la commune où le maire a signé. Et donc, les gens, ils ont très très peur. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il va y avoir de gros problèmes. Bon, je pense que si on n'en parle pas aujourd'hui, on en parlera prochainement. Dans un autre clan de la presse, c'est la multiplicité des candidatures relativement sérieuse, parce qu'on est à peu près à 17 ou 18 candidats maintenant, et qui c'est pas le parti de la loi naturelle ou les adorateurs de l'oignon, n'est-ce pas?
Ah, ils vont se présenter.
Ce sont des gens. C'est genre Alain Badelin.
Il est adorateur de l'oignon.
Non, mais Charles Pasqua, Jean-Marie Le Pen, Bruno Maigret, des gens comme ça. Il est certain que quand vous avez besoin de 500 signatures, j'ai déjà 15 ou 17 candidats et qu'il y en a déjà à environ 70%. des personnes qui pourraient donner leur signature qui refusent déjà de signer, ça va être très difficile.
L'évaluation qui était donnée par le sondeur, non pas par le sondeur, par l'organisateur de la journée des maires, là, c'était qu'il restait à l'heure actuelle 10 000 maires qui étaient susceptibles de donner leur signature.
Oui, donc, 70, oui, donc voilà. Un tiers.
Il y a 10 000 en maires,
3 fois 3, 9, ça fait à peu près 10 000 maires.
Bon, 10 000 signatures, ça veut dire...
plus les conseillers généraux et régionaux.
Ça veut dire 20 candidats maximum, c'est ça ? 20 fois 500, 10 000, non ? Je crois que je suis encore content.
Oui, mais tout le monde sait que Jacques Chirac va avoir à peu près 4 500 signatures.
C'est ça.
Donc déjà, une bonne partie est absorbée par là. Lionel Jospin aussi. Robert Rue en aura largement plus de 500. Bon, et donc pour les autres candidats, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile.
Mais les candidats ne désespèrent pas d'avoir leur signature, je sais... De quoi je parle en ce qui concerne Jean-Marie Le Pen.
J'espère que les candidats ne désespèrent pas, parce que sinon, ça serait désespérant.
Sinon, il y aura une abstention phénoménale.
Je reviens aux auditeurs qui interviennent. Alors, Jean Madiran, je vous signale qu'on est à peu près à égalité dans l'anathème, hein, sur le pape. À peu près à égalité. Moitié-moitié. Oui, ceux qui pensent que j'ai absolument raison, ceux qui pensent que vous avez totalement tort.
Oui. C'est une façon d'exprimer.
Pile je gagne, face tu perds. Tu sur la police, beaucoup de messages. La police ou la sécurité. Un auditeur nous dit, il doit savoir de quoi il parle. On tare de plus en plus à 4,5 kg la pression exercée sur la détente des revolvers. Alors vous imaginez, s'il faut appuyer avec une pression de 4,5 kg pour faire partir son arme, exercer avec le doigt une pression de 4,5 kg sur la détente pour la faire partir.
Il y a généralement deux détentes.
Hein. Voilà. Donc il dit que c'est de plus en plus difficile d'utiliser son arme. Je me demande si les voyous, eux, tarent à 4,5 kg. Ce serait une question intéressante à poser. Et un autre auditeur nous dit... les intervenants sont intelligents. Les intervenants sont intelligents, dit-il.
Merci.
Ce qui est gentil.
On leur remercie.
C'est pourquoi je leur demande d'être conséquents dans leur raisonnement.
Il faut attendre la suite.
Dès que l'on aborde, non mais c'est intéressant ce qu'il dit. Dès que l'on aborde des solutions pour améliorer la sécurité, il faut annoncer immédiatement la planification de la construction de 400 000 places de prison. Sinon, le raisonnement ne vaut rien. Les 400 000 sont tirés des ratios américains appliqués à la France. Alors, c'est vrai ce qu'il dit, mais il faut savoir une chose, c'est que, à la différence des États-Unis, la France a une très forte criminalité importée. Je ne sais pas comment il faut dire ça pour pas tomber sous le coup de la loi Guesso. Et que c'est peut-être pas la peine de construire des places en prison en France, alors qu'il y a de nombreuses prisons qui ne demandent qu'à se remplir dans les pays d'origine des individus.
Non, mais de toute façon, il y a besoin de prisons et c'est Badinter qui a arrêté. C'est Badinter qui a arrêté la construction des prisons parce qu'on en construit quand même pas assez comme on fait le reste. Mais en construisant des prisons, c'est Badinter qui l'a arrêté et qui est à l'origine des consignes données au parquet et éviter autant que possible le plus possible l'emprisonnement.
Mais Chalandon n'était pas pour des prisons privées.
Si, il y a beaucoup d'appels qui signalent que Chalandon était pour des prisons privées et puis il a renoncé à son plan peut-être parce que
non, il y en a eu quelques, il y en a eu construit après les Chalandonnettes, on a fait les prisons privées.
Probablement un des premiers clients de sa propre entreprise. Alors, ma chère Marie-Camille, vous aviez raison. Vous parlez de la Bactriane et de la Sogdiane. La Bactriane, c'est Gandillon qui écrit ça. Ça ne fait pas un feuillet entier.
Très bien.
Je vais le taquiner. Vous parlez de la Bactriane et de la Sogdiane. La Bactriane est située entre l'Amoudia d'Aria, l'Oxus des Grecs, et l'Hindoukouche, le Paropamissus des Grecs. La capitale était Bactra, aujourd'hui Balkh, située à côté d'Amazari-Sharif. La Sogdiane se trouve au nord de la Bactriane, entre l'Amoudaria et le Sir d'Aria, l'Oxus et le lac Sartès des Grecs. Sa capitale était Marakanda, aujourd'hui Samarcande. Je trouve que c'est un peu bâclé ce truc-là. Hein. Ça se manque un peu de précision, tout ça. Vous trouvez pas ?
Ah non, moi je trouve.
Il n'y a pas le kilométrage.
Très précis.
Il n'y a pas les dates et il n'y a pas le kilométrage. Gandillon, vous me refaites votre copie tout de suite. Bien. Autre sujet, dans l'actualité. Est-ce que nous avons évoqué tous les sujets qui vous paraissent mériter qu'on s'y arrête?
Je crois revenir un petit peu sur le problème de l'Afghanistan. Moi, j'ai dit ce que je pensais de la position du gouvernement français.
Je suis un peu inquiet. Je veux bien parler de l'Afghanistan, mais un auditeur dit « Vous aurez le droit de faire un tour du pâté de maison en course à pied en disant « chaque fois que vous prononcerez le nom de Ben Laden, vous gagnez le droit de faire le tour du pâté de maison en petite foulée, en disant je n'emmerderai plus les auditeurs de Radio Courtoisie avec Ben Laden. » Donc je te signale, Jean-Claude, que t'es bien parti pour gagner quelques tours de pâté de maison.
Ceci dit, sans citer Ben Laden, je pense que le problème de l'Afghanistan est un endroit qui ne va pas être réglé immédiatement et que nous risquons d'en parler malheureusement. Peut-être très longtemps.
Bah oui, ça semble le. Ça devait être avec les victoires de l'Alliance du Nord, dont Monsieur Alain Madeleine nous répète qu'il connaît tous les chefs et qu'ils sont admirables. Mais pour le moment, semble. Ouais. Peut-être parce qu'ils ne sont pas les seuls au pouvoir, mais enfin, en tout cas, ce que ça montre, c'est qu'un pays ethnique. N'est pas viable, ni pour lui, ni pour ses voisins. Ça me paraît la chose que l'on peut retenir de l'affaire afghane, c'est que c'est une poudrière qui ne demande qu'à exploser.
Ça, c'est, si vous me permettez, Camille, ça n'est ni une information, ni une nouvelle. Ça doit faire à peu près, enfin, depuis Alexandre le Grand, c'est une poudrière qui demande qu'à exploser.
Puisqu'on n'en tient pas compte et qu'on veut faire ailleurs des poudrières, qu'on veut faire des Afghanistan ailleurs, quand on entend, les troubles de Sangatte, où je crois il y a eu les bagarres entre Kurdes et Afghans la nuit dernière ont duré pendant 7 heures.
Oui, ça c'est très
bien. Ont fait des dizaines de blessés. Bon, ces gens veulent se réfugier, ils sont à Sangatte parce qu'ils veulent se réfugier à le passer en Angleterre, mais comme ils n'y arrivent pas, nous les aurons chez nous.
Je suis content que vous évoquiez ce sujet parce que je voudrais qu'on m'explique. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, autour de cette table, pourquoi nous, Français, nous nous occupons d'empêcher les Kurdes, les Afghans, les Ouzbeks, les Pachtirs, les Moltecs, de passer en Angleterre?
Bien entendu, parce que c'est nous qui serons responsables et qu'il y aura des amendes énormes à payer pour chaque...
Mais payons.
Oui, vous avez raison, Serge.
Il les renvoie.
Mais nous, on n'en veut pas. On dit, attendez, vous avez un passeport en rentrant en France? Non, alors
écoutez, je me souviens, il y a quelques années, avoir rencontré le capitaine du port de Dublin et qui disait, oh, c'est terrible, chère madame, mais quand on vous renvoie les ferries qui venaient du Havre, ces ferries avec ces malheureux à bord, on vous en renvoie à chaque fois 1200 ou 1300, mais nous pleurons, mais nous sommes trop pauvres, nous ne pouvons pas, nous sommes obligés de vous les renvoyer.
Mais ils les renvoient quand même.
Ils les renvoient, mais ils avaient tout à fait raison de nous les renvoyer, je ne vois pas pourquoi les Irlandais les auraient acceptés.
Non, mais ils ne sont pas arrivés en France. Ils sont rentrés en Europe et une fois qu'ils sont à l'intérieur de l'espace Schengen, les seuls qui les refusent pour le moment, c'est les Anglais qui nous les renvoient. Mais il faut pas dire qu'on les accepte en moins. En fait, ils sont rentrés parce qu'il y a d'autres frontières qui sont poreuses. Ce qui est remarquable, en tout cas, c'est que ça fait quand même pas très longtemps que Bush a décidé de s'attaquer à l'Afghanistan. Et là, il y a un truc qui est extraordinaire, c'est l'Afghan est très à la mode et bien porté. Donc là, les nouveaux réfugiés...
Ce sont des Afghans.
Les filières se sont mises en place, déjà fonctionnent par bateau, camion, train complet, et on est en train de récupérer en Europe parce qu'ils peuvent jouer à ce moment-là l'asile politique.
C'est difficile pour un Français d'aller en Afghanistan que pour un Afghan de rentrer en France. Regardez nos 60 parachutistes.
C'est-à-dire que tous les Pakistanais peuvent se faire passer que pour Afghan, de même que tous les Tamouls indiens se faisaient passer il y a quelques années pour Tamouls du Sri Lanka. Or, le Tamil Nadu en Inde, c'est quand même, je crois, 50 millions d'habitants ou quelque chose comme ça. Donc, le vivier est absolument énorme. Et le Pakistan, oui, c'est 130 sûr, millions d'habitants. Ce sont des patanes ou des pashtuns, c'est la même chose. Bon,
si vous permettez, là, je terminerai, parce qu'il nous reste 3 minutes, en donnant la parole à François Brignot, qui écrit dans le Libre Journal, et qui écrit ça. « M'étant fait sévèrement ramasser en m'inquiétant aux races et en préférant la mienne aux autres, je me tenais à l'écart des ethnies. Malheureusement, elles grouillent. Il y a les Pashtuns, les Ouzbeks, les Tadjiks, les Kisilbaks, les Kafirs, j'en passe, tous dépenaillés, gris comme des épouvantails aux faucons. Mon fils François... qui à l'œil distingue ceux qui sont coiffés d'une tarte tatin et les autres. Je me demande si la classification tient la route. Donc je vous propose d'en terminer là avec l'Afghanistan. Pour reconnaître les bons Afghanistan des mauvais, il faut voir ceux qui portent des tartes tatin et les autres. Je ne sais pas encore qui sont les bons, qui sont les mauvais. Ce que je peux dire, c'est que on nous
les
a cassé...
Les tartes tatin, selon Madelin, c'est les bons.
Bon, c'est les bons. Alors, on nous a cassé les oreilles. Encore une fois, je suis au-dessus de la vérité. Pendant des mois... avec le boukra, le burqa, je sais pas quoi, des femmes afghanes, en disant ça c'est l'abomination de la désolation, les talibans sont des salauds qui font porter ça, et vous allez voir ce que vous allez voir quand Massoud va arriver au pouvoir, ou les successeurs de Massoud, les femmes vont se dévoiler, pour le plus grand plaisir des hommes d'ailleurs, et apparemment partout dans les villes où les anti-talibans ont chassé les talibans, la seule chose qui n'a pas bougé, c'est le... comment vous appelez ça? Le burqa,
le grillage. Tchadari,
voilà, le grillage des dames. Donc, une fois de plus, on nous a trompés. Et ce qui m'a beaucoup amusé, c'est quand même l'interview d'un type qui allait rentrer dans le cinéma de Kaboul, réouvert pour la première fois depuis X années, et qui a dit, enfin, c'est ce qu'a traduit le journaliste, « Enfin, on nous rend notre culture ». Et alors, le film qu'ils allaient voir, c'était un film de kung-fu. Bon, donc, ils récupèrent leur culture, la culture afghane, incluant depuis peu de temps, le kung-fu, ce que j'ignorais. C'est la fin de ce clan de la presse. Nous recevions ce soir Jean Madiran de Présence, Saint-Cru-d'Amboise, Marie-Camille de Gallic de Rivarol, l'adresse.
Rue d'Audeville. Et je voudrais juste rappeler que nous avons notre pot annuel ce samedi. À l'espace du Bail, 18 passage du Bail dans le 10e, que bien entendu tous les amis de Rivarol sont invités. Pour ceux qui ne sont pas membres de l'association des amis de Rivarol, c'est 70 francs. Et alors, j'espère tous vous y voir.
On fait la coupure technique et puis je finirai de représenter mes invités de ce soir après.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel de la francophonie. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech, dirigé successivement par Serge de Bekech et Daniel Amiche, avec l'assistance de Jacqueline Levenbruck, document d'archives du 21 novembre 2001, rediffusé dimanche 26 février 2012 dans la nuit de 2h à 5h. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission. Mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Donc j'avais dit que j'annoncerais les autres invités de cette première partie. Il y avait Jean-Claude Varane de National Hebdo, 6 rue Vauguyon à Saint-Cloud. Qu'est-ce que c'est le code de Saint-Cloud?
92 100.
210.
Ah, 92 210.
C'est formidable d'être entouré comme ça de gens qui sont des mémoires vivantes de notre temps.
Et des codes postaux.
Et des codes postaux. Et Emmanuel Ratier fait ses documents, boîte postale 254-09, 75-424 Paris, CEDEX 09. Et Fersan, alors votre truc là, le petit...
Boîte postale 18, 63670, Le Cendre.
Voilà, mais abonnez-vous plutôt au Libre Journal quand même. Enfin non, il faut l'aider le petit Fersan, il a beaucoup de talent.
Donc c'est combien votre petit journal Lounais?
C'est 120, mon petit mensuel est à 120 francs par an.
Oh, un mensuel à 120 francs, ça il faut pas le coup de
100. Un mensuel qui paraît chaque mois, je tiens à préciser.
C'est du doom.
Absolument. Parce que maintenant qu'il y a des quotidiens qui paraissent chaque mois, je précise que c'est un mensuel qui paraît chaque mois.
Mais les quotidiens. Pour qui vous dites ça, en de faire 100? Pourquoi il dit qu'il y a des quotidiens?
Parce qu'il y a des escrocs qui font des mensuels qu'ils appellent des quotidiens.
Ah bon?
Ouais.
On n'est jamais sur les bons coups, nous autres.
Non. Alors, je reçois pour cette deuxième partie Monsieur l'abbé Cellier, éditeur, prêtre et éditeur, qui va nous parler d'une sélection d'ouvrages pour Noël.
Pour Noël et pour les enfants.
Des livres et pour les enfants. Je reçois également Guy Le Hideux, que vous connaissez, qui est le spécialiste de la bande dessinée de l'émission, et alors qui est venu accompagner ce soir, c'était une bonne surprise.
Un autre
quand il m'a dit qu'il viendrait avant, il m'a prévenu qu'il amènerait Claude Moliternier. Claude Moliternier, on pourrait échanger des souvenirs pendant des heures, ça fait 30 ans au moins. Oui, Daniel Amiche, je regarde sa montre. Ça fait, oui, bien, ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît, bien sûr, plus de 30 ans. Claude a fait partie de l'aventure pilote, la grande aventure pilote de la grande époque.
Matin, quel journal,
vous voyez.
Un ancien lecteur.
Comme quoi, on pouvait lire pilote et puis bien finir aussi.
Bien sûr.
Et donc, Claude a été scénariste, enfin, il est toujours scénariste, il a été un des grands personnages de la bande dessinée française, l'inventeur, on peut dire l'inventeur, non pas de la BD française, mais du mouvement
oui,
de la bande dessinée française, qu'il a transformé en phénomène culturel. N'hésitons pas à employer le mot, parce que c'est vrai que pendant quelques années, ça, c'est devenu un vrai phénomène culturel.
Il fallait se battre pour arriver à imposer. Beaucoup
avec des conférences, avec
des expositions.
Des expositions formidables, avec projections, l'époque des projections.
Au musée des arts décoratifs.
Au musée des arts déco, ou au studio de Champs-Élysées.
Au studio de Champs-Élysées.
Où j'ai vu tous les grands Corman, car il n'y a pas de petit Corman, bien entendu. qui est un des plus grands cinéastes de l'histoire du cinéma mondial, Corman. Hein,
c'est bien vrai, ça. Voilà.
Bon, enfin, on va pas raconter tout ça, mais après cette vie de dissipation, Claude a décidé de se racheter, et si je ne me trompe pas, tu as fait une Bible en bande dessinée. Voilà, donc j'ai pensé qu'entre le lecteur de pilote devenu prêtre et l'ancien...
scénariste de pilote.
Oui, c'est pas ça que je faisais allusion, c'est plutôt vraiment... Devenu dévot, il y avait forcément une rencontre qui pouvait se passer. Et puis alors, Henri de Fersan est toujours là, et alors lui, il nous a apporté quelque chose qui est un peu hors sujet, mais quand même dans le coup, c'est sa brochure « L'Église catholique et le nazisme », qui lui vaut la haine vigilante... J'ai tenté qu'il soit vigile de Monsieur Konopticki depuis quelques mois, mais on en parlera tout à l'heure. Alors, je commence, si tu permets, mon cher Claude, par Monsieur l'abbé. Donc vous avez la parole, Monsieur l'abbé. Que faut-il offrir à nos enfants de 0 à 28 ans?
Ouais, 14 ans. On dit que la jeunesse finit à 14 ans.
J'ai vu un film, là, il y a des affiches partout. Il paraît que les enfants vivent chez leurs parents à 28 ans encore.
Jusqu'à 28 ans, oui, mais ça, c'est les modernes. Nous adressons aux traditionnels.
Ah bon.
Alors, je voudrais d'abord rappeler qu'en matière de livres d'enfants, méfiance et toujours méfiance. Hein, le pire côtoie le moins bon.
Hein, voilà. Ça commence bien.
Alors, je voudrais rappeler un petit fait qui s'est passé puisque je suis entouré de spécialistes de bande dessinée, ils vont retrouver toute leur jeunesse, le 24 octobre dernier, le 24 octobre 2001, sur TF1, je crois que c'est une chaîne de télévision française, et donc il y avait un dessin animé, c'est le mercredi, la jeunesse, le mercredi 24 octobre, Prudence Petit Pas. Ça vous rappelle quand même
quelque chose.
Prudence Petit Pas.
C'est une bande dessinée qui a été publiée dans Tintin.
Voilà, dans les années 60.
Dessinée par Maréchal.
Voilà, donc vieille dame avec un chignon blanc, son petit parapluie.
Très costaud.
Qui fait des enquêtes. Et cette vieille dame rentre dans le dessin animé sur TF1, mercredi 24 octobre 2001. La vieille dame rentre dans une église. Il y a une chorale d'enfants. Il y a un prêtre en soutane. Ils sont en train de chanter des cantiques. On se dit Prudence Petit Pas, les années 60. Là, une chorale d'enfants, il faut chanter des cantiques, etc. Et la brave Prudence qui s'adresse aux enfants en disant ça marche les cantiques. Réponse, alors là, tout s'écroule. Oh la barbe, on préfère le rap. Voilà. Donc, quand on croit que tout est bien, eh bien, il faut donc se méfier. Donc, c'est un petit exemple de pour rire un petit peu, mais de dire que il faut vraiment être attentif. Donc, ce que je propose ce soir, c'est une sélection de livres de jeunesse préparés par la librairie France Livres. Donc, je donne l'adresse 6 rue du Petit Pont dans le 5e arrondissement et qui a été cherché au milieu de tous les éditeurs, au milieu d'une production pléthorique et très mauvaise, ce qu'il y a d'intéressant et de bon.
Hein, et donc, je recommande aux personnes d'aller à la librairie où ils auront un bon conseil, où ils auront des bons livres, parce que sous des apparences agréables, très souvent, ou intéressantes, ou jolies, très souvent, c'est trompeur. Donc on va faire ça par âge, comme on le fait tous les ans, n'est-ce pas?
De deux ans. Alors ça, c'est des livres qui sont pas trompeurs, qui sont beaux,
entre toutes les mains, en fonction des âges. D'accord. Hein, voilà. Donc, d'abord, de 2 à 4 ans, Les Maisons des Animaux, c'est chez Gallimard Jeunesse, et donc ça va être des livres illustrés pour démarrer pour les petits. Donc on voit l'ensemble des nids, des terriers, etc. de tous les animaux.
Et c'est mignon parce que c'est un livre comme les enfants aiment bien,
avec des onglets.
Avec des onglets, voilà, l'onglet tel qu'on le pas.
Oui. C'est plutôt les onglets, c'est ce qu'on a l'hiver quand
voilà.
On est dehors.
Alors il y a l'onglet montre un animal, un petit lapin, un petit oiseau, une fourmi, etc. Un écureuil, un ours blanc. Un truc sans mes lunettes, on dirait un castor, mais un castor qui semble voler, ce qui est bizarre, et una tortuga. Et à chaque fois, quand on tourne la page, on tombe sur l'illustration qui montre très très joliment, d'ailleurs, ce sont des dessins de qui, ça? Sylvaine Perrol.
Voilà.
Très joli petit.
Et ici, de Pierre Marivala, vous avez toujours chez Gallimard Jeunesse les couleurs, alors les diverses couleurs.
Ah, ça c'est bien, oui. Le rouge est rouge, la fraise est rouge, les poissons sont rouges, voilà. Le chat est orange. Alors ça, elle commence. On suppose que l'auteur a fumé quelque chose de pas sain.
Le LSD peut-être un petit peu en abondance.
Le tournesol est jaune, la sauterelle est verte. Voilà. Le dinosaure est violet, ça je demande. Je demande qu'on me le prouve.
Voilà, mais vous ne pouvez pas prouver le contraire non plus. Personne n'y est.
Les dinosaures ont-ils existé d'ailleurs?
Voilà. Alors, par Eliador, toujours chez Gallimard Jeunesse, le jardin potager. Un jardin potager très français, c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc on trouve vraiment ce qui pousse chez nous.
Un jardin français.
Voilà, parce que donc souvent on voit de l'Afrique ou de l'Asie, etc. Là c'est vraiment le jardin potager français.
Le jardin potager, c'est chez Gallimard Jeunesse.
Gallimard Jeunesse aussi.
Eliador, c'est joli comme nom ça, Eliador.
Ensuite, toujours pour les 2 à 4 ans. Bien sûr, le best-seller absolument inusable, Petit Ange.
Vous permettez, monsieur, voilà. Il faut quand même dire une chose, c'est que vous l'avez expédié un peu vite, le Jardin Potager. C'est
un livre à rabat.
C'est un livre à rabat. Ils appellent ça un tournimagier. Alors quand on ouvre la page, on voit, par exemple, visite maintenant le carré des choux, des salades, des épinards, des poireaux, des fenouilles. Alors il y a tout le jardin avec tous les légumes et on entr'ouvre un rabat et on voit le chou-fleur, le chou vert, les choux de Bruxelles. Les poireaux.
Qui n'est pas un rabat gallican d'ailleurs, voilà. Il faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Mais là, on anticipe un peu sur ces filières d'herbe. Hein.
Voilà, c'est ça.
Alors.
Ensuite, le grand best-seller, bien sûr, Petit Ange. Alors, chez Clovis, la propreté de Petit Ange et la promesse de Petit Ange.
Donc, ma passion.
Petit Ange est fidèle à sa promesse et Petit Ange est très propre, comme on le voit sur l'image de couverture où on le voit avec sa brosse à dents, son savon, ça, tout ce qu'il est nécessaire pour être parfaitement propre. Et enfin, toujours pour les 2-4 ans, c'est un livre très amusant, un livre à jouer. Donc, ça s'appelle Le Livre à compter de Pierre Lapin. Et donc, on ouvre et on nous dit combien de lapins portent une veste bleue, déplace un petit lapin. Donc, il y a une espèce de petite réglette, un petit boulier. Et on apprend à compter. L'enfant apprend à compter avec une sorte de petit boulier.
C'est joli comme tout.
Voilà, c'est très bien dessiné. C'est très
mignon. Ça fait un peu penser au dessin de
Béatrix Potter.
C'est
le lapin.
Ah, c'est pour ça. Donc, finalement, il y a une certaine logique dans tout ça. Évidemment, si c'est des dessins de Béatrix Potter, c'est normal que ça fasse penser à... Voilà. Mais il n'y a pas besoin d'être un spécialiste de la bande dessinée.
Voilà, ça c'était donc pour les 2 à 4 ans. Maintenant, passons aux 4 à 6 ans. Donc, on vient de parler de Béatrix Potter. Il y a Le Petit Monde de Pierre Lapin qui regroupe les principaux contes illustrés par Béatrix Potter, qui est quand même une grande classique, très jolie.
Mais pourquoi pas, il s'appelle toujours Jeannot, les lapins. Qu'est-ce que c'est que cette...
Ben oui, mais Béatrix Potter...
C'est Peter Rabbit.
Voilà, oui. C'est ça. Ça, c'est pas français.
Est-ce que vous avez remarqué que Harry Potter, si on inverse les syllabes, ça fait Happy Rotter, c'est-à-dire le joyeux pourrisseur. Voilà, mon fils qui m'a fait remarquer.
Oui, c'est un ami aussi qui me l'a signalé.
C'est amusant, non?
Voilà. Et j'ai envie de faire Petit Ange contre Happy Rotter, comme on a Arsène Lupin, Herlock Sholmès. Alors ici, vous avez donc chez Mango Jeunesse l'art en puzzle, et donc vous avez donc un puzzle des grands tableaux. Alors c'est autour du thème de la musique. Hein, et donc on découvre finalement l'enfant à la fois fait un puzzle et il découvre une œuvre.
Chaque page enfin, chaque double page présente à gauche le nom de l'œuvre, à droite l'œuvre parfaitement parfaitement reproduite, mais sous forme d'un puzzle qu'on peut
défaire.
Il est en quelque sorte encastré. Oui, voilà. C'est ça, dans la page. Voilà. C'est un bouquin superbe.
Voilà, c'est une série chez Mango, et ils ont là. Et là, cette année, on a choisi la musique, un petit peu pour découvrir les grands musiciens.
Ça finit mal, malheureusement, ça finit par
un
tableau de Lucien Léger. Oui, non, pas de Lucien Léger.
Fernand.
Qui est plutôt assassin d'enfants illustrateur de Fernand Léger. Oui. Voilà.
Ici, donc, sur les traces de Petit Renard, c'est aussi une série. C'est de Pierre Couronne, texte de Marie Duval. C'est les éditions Emma. Et donc là, on voit la vie du renard toujours européen, français. Enfin, français, il peut passer les frontières quand même. Mais c'était de très jolis dessins.
D'ailleurs, vous le montrez, il est dans le tunnel de Sangat.
Voilà.
C'est très joli comme dessin, c'est vrai. Hein. Ah, oui, très très joli.
Ça fait penser un peu à Haussmann comme dessin.
Un peu, oui. Ouais. Mais là, c'est Pierre Couronne. C'est
pas... Voilà. Alors, bien sûr, de nouveau un grand classique, Inusable, Agathe et Louis au Mont-Saint-Michel, donc aux éditions Clovis.
Mais ils vont à l'école quand, Agathe et Louis? Parce que moi, j'ai tous les albums d'Agathe et Louis, ils sont tout le temps en Afrique, au Pôle Nord.
Et la prochaine fois, ils seront à Hong Kong. Alors, c'est vous dire que c'est pas là qu'ils apprendront.
Est-ce que vous croyez que c'est comme ça qu'ils vont réussir leurs études?
Mais on suppose que ça se passe pendant leurs vacances. Mais ils ont beaucoup de vacances. Ils ont beaucoup de vacances. Ils sont très actifs pendant leurs vacances. Donc, toujours de 4
c'est
à 6
Emmanuel Delplanque et Grégoire Mathieu qui font Agathe et Louis. Oui, c'est toujours très très joli, très amusant.
Voilà, c'est Agathe.
Plein d'aventures, je dois le dire, assez peu vraisemblables.
Voilà, c'est ça.
Faut bien quand même admettre.
on peut toujours rêver à un enfant. Voilà, et puis de Ute Blech et de Julie Letty, c'est L'Étoile de Noël, chez aux éditions Nord-Sud. C'est un petit conte de Noël, avec des dessins, je ne sais pas quelle est la technique, je pense que c'est du...
Ça ressemble à Japonman, c'est pas pour...
En tout cas, c'est très joliment dessiné. Vous voyez, avec des grands.
C'est très japonais dans les couleurs.
Voilà, c'est ça. Hein,
c'est des pastels de bleu, de parme, de violet.
Ça vous rappellera.
C'est ravissant.
Voilà.
Oui, ravissant. Voilà des dessinateurs vrais. Qu'est-ce que tu en penses, Claude? Toi qui es le super spécialiste du dessin.
Et l'illustration.
Et l'illustration.
Non, c'est un très très beau bouquin. Beau, hein. Et lorsqu'on fréquente la foire du livre pour enfants de Bologne, là, on trouve des choses extraordinaires. Ouais. C'est là qu'il faut. Se perdre dans les allées pour découvrir des auteurs de talent, mais celui-là particulièrement, c'est extraordinaire. C'est
Alors, vrai, t'as conseillé, hein. On est obligé d'avancer, malheureusement, parce qu'on pourrait s'attarder pendant longuement, de 6 à 8 ans, donc un grand classique, Les Aventures de Tom Pouce. Hein. Donc, mais c'est joliment illustré, c'est ça qui est amusant. Donc c'est un grand classique, mais...
Non, ça ressemble pas du tout à Haussmann, ça.
Voilà, non, ça c'est bon, c'est plus huile que... Ouais. C'est un peu plus huile que pastel.
C'est un peu héroïque fantasy, si les auditeurs voient ce que c'est. Un peu cette ambiance-là, on voit Tom Pouce chevauchant un surmulot richement harnaché.
Ça fait très Tolkien, comme on veut.
Oui, voilà, c'est ça, c'est très Tolkien.
Alors en revanche, là, le Paris de Rusé Renard, donc illustré par Barbara McClintock, donc c'est chez... Alors, je ne sais plus c'est chez qui, c'est chez Circonflex. Et là, c'est vraiment le dessin à l'ancienne, anglais à l'ancienne. Aussi, vous voyez, les illustrations anglaises.
Qu'est-ce qu'ils vont être contents, mes petits-enfants, quand je vais leur rapporter tout ça?
Ah, non, faut pas tout piquer parce que ça appartient à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, dans le 5e arrondissement. Et je vais me faire mal voir si je...
Elle est très riche, la librairie France Livre. Avec la publicité.
Vous pourrez en prendre un ou deux, mais après, moi, je vais me retrouver.
Non, n'ayez pas peur.
L'état d'ennui. Alors, une nouvelle série que nous venons de lancer, donc que Clovis vient de lancer, Les Aventuriers du Mercredi, vous l'avez reçu ou vous l'avez
pas reçu? Non, toujours pas. Non,
Amstram Graham, le voilà, c'est pour vous.
Ah, celui-là, oui, voilà,
c'est pour vous.
Quand même,
Amstram Graham,
faut jamais désespérer.
C'est très joli, et c'est donc notre ami Chérier, qui est l'auteur de Petit Ange, qui écrit et qui dessine.
Et c'est écrit en gros, en plus.
Voilà, donc c'est pour les lecteurs débutants, donc c'est...
Bah, ça me va.
Voilà, donc c'est toujours
colorié.
C'est de 6 à 8 ans. 6 à 8 ans, Amstram Graham, Les Aventuriers du Mercredi, par Jean-Luc Chérier, chez Clovis. Et enfin, chez Épigone, c'est donc Jacques S., illustré par Philippe Lejean de Quater, c'est L'Horloger du Roi. Donc c'est une petite histoire médiévale qui fait découvrir donc le Moyen-Âge avec ce petit dessin que j'aime.
Renaissance, même, on dirait, là.
Voilà. C'est plutôt Renaissance. Là, on voit,
non, c'est Renaissance.
C'est voilà. François.
François Ier.
Anchois Pommier.
Oui. Voilà.
Oui, joli aussi, avec des beaux dessins du Louvre.
Ça, c'est peut-être pas le Louvre, c'est peut-être Amboise.
C'est Amboise, oui, pardon.
Ah, d'ailleurs
bon, ça fait tout à fait penser au Louvre, mais j'ai parlé trop vite.
Oui,
Amboise, absolument.
On me la fait pas, moi.
Voilà. Alors, maintenant, nous continuons. Donc, de 8 à 10 ans,
Alors de 8 à 10 ans, nous n'avons pas trouvé grand-chose, ça a été un petit peu difficile, donc on a été obligé de se rabattre sur des classiques, mais enfin les classiques sont toujours bons. Donc il y a Bennett, la série Bennett bien connue, Bennett et sa cabane, Anthony Buckeridge, c'est au livre de poche, jeunesse. Alors Bennett, c'est quelqu'un qui veut toujours bien faire, mais ça finit toujours mal, en gros c'est ça. Donc il viole pas la loi. Serge de Bennett, et donc et ça finit toujours mal, c'est-à-dire qu'il finit toujours en dehors de la loi et de la règle, et il a des tas d'ennuis, et c'est très amusant, c'est très drôle. Alors, un grand, grand, grand classique, mais qui est joliment illustré, c'est Cro-Blanc de Jack London, donc illustré par Monique Gord, avec là, un peu pastel aussi, mais dans une ambiance très... On voit les Indiens,
Il y a du texte.
Voilà, on est de 8 à 10 ans, là on commence à vraiment à lire, théoriquement.
Chez les gens normaux.
Je vois un bouquin passionnant, là.
Voilà. Ah, oui. Sur les avions, tout un monde chez Nathan, les avions. Alors, c'est à la fois de la photographie et du dessin. Et là, c'est vraiment la découverte.
Ça, c'est pour les grands 10
ans. Je ne sais pas si c'est un éclaté ou une explosion.
J'espère.
En tout cas,
c'est réaliste.
C'est danger dans les airs. C'est danger dans les airs, effectivement. C'est un accident en plein ciel. Mais sinon, il y a tout. Il y a des photos, il y a des dessins, il y a beaucoup d'explications. C'est tout à fait.
Ça fait penser au pilotorama de pilote pour revenir à pilote. Et dessiné par qui?
Alors,
ça dépend. Celui, j'irais Henri Dain.
Henri Dain. Bon, il y en avait d'autres.
Marcelin, bien sûr.
Magnifique. Mon Dieu.
Toute notre jeunesse enfuit. Alors, maintenant, de 10 à 12 ans. Donc, on commence à le délivre un petit peu plus sérieux. Il faut que les enfants, quand même, tous en se distrayant, se forment. Ici, vous avez, par Gérard Soncarieux, Le premier tour du monde. Donc, c'est l'histoire de Magellan. Tout simplement. La vie de Magellan. Enfin, le tour du monde par Magellan.
Ça, c'est un livre format poche.
Voilà. C'est au livre de poche, effectivement. Et ça permet de découvrir. Bon, c'est, je pense, un peu romancé à partir des livres de bord de l'époque. Mais c'est tout à fait amusant. Ici, c'est quelque chose qui est très couru actuellement, mais je pense que c'est bien. Ce sont des romans policiers, un petit peu d'intrigue et de policière, qui se passent dans l'Antiquité. Ici, c'est Tumulte à Rome par Odile Velers. Et donc c'est l'histoire romaine, un petit peu mis en roman policier. Donc les enfants trouvent ça très attrayant, agréable, mais ils découvrent toute la vie de l'Antiquité, l'ensemble des mœurs de l'Antiquité. Je pense que c'est à la fois agréable et formateur. Donc c'est Odile Velers et c'est toujours au livre de poche, Hachette Jeunesse. Ici, c'est également le livre de poche. C'est donc Hachette Jeunesse, Alan Eckert, La Rencontre, c'est l'histoire véridique de Ben MacDonald, donc c'est l'histoire de l'amitié de Ben MacDonald.
Ça s'invente pas, ça.
Voilà, c'est ça.
Ben MacDonald.
Voilà, c'est ça.
C'est quand même dur à porter comme nom.
Voilà, actuellement. Non, mais ça se passe en 1870, donc c'est avant tous les événements et toutes les constructions de fast-food. Et donc c'est l'histoire de l'amitié d'un enfant avec un animal, n'est-ce pas, une mère blaireau. Et donc il y aura, et finalement, je crois que la mère blaireau va mourir, et donc ça c'est très triste, on pleure, mais en même temps...
Ben MacDonald qui est une mère blaireau.
Il faut l'inventer, c'est
incroyable. Le mauvais esprit est interdit. Donc c'est toujours de 8, c'est de 10 à 12 ans, hein, et tout ça, je rappelle, peut se trouver à la librairie France Livre, 6 rue de Petit-Pont, dans le 5e arrondissement. Et ici, nous avions vu comment on appelle ça, les puzzles sur la musique. De nouveau sur la musique, mais alors beaucoup plus. C'est chez Massin. C'est musique à regarder, Mozart et son époque. Et là, on va découvrir toute la vie de Mozart, toutes les techniques musicales, le milieu musical, le monde de l'opéra, Paris, Inde, l'orchestre moderne, etc. Donc là, c'est à la fois très agréable, des très jolis dessins, et très instructif sur l'ensemble de la musique.
Et c'est vraiment, encore dans la tradition des pilotoramas. Hein, voilà. Des grands dessins, avec des explications à chaque fois, des légendes multiples dans les dessins.
Ça fait penser aussi à l'histoire des hommes chez Hachette.
Oui, c'est ça, un peu, oui. Ouais. Là, par exemple, les Turqueries, superbe. Voilà,
je dirais qu'il y a quoi, il y a 10 ans.
Alors, ça, c'était le 10 à 12 ans. Nous passons du 12 à 14 ans. Alors ici, donc, ce sont des livres, hein, ce sont des livres, des romans écrits avec, où il y a quand même 250 pages. Avec des lettres. Ah, donc, un grand classique, un grand, grand classique, c'est Nonni par John Svensson. Je sais pas si vous connaissez. C'est donc un jeune Islandais qui quitte, donc ça a été raconté, c'était une histoire vraie, c'est un jeune Islandais qui quitte l'Islande et qui...
Comment on le comprend ?
voilà, effectivement, et qui va donc en mer sur un petit navire danois à voile depuis le nord de l'Islande jusqu'à Copenhague. Et donc c'est toute son aventure, et ça vient d'être édité chez Elor, et c'est un très très beau livre. Et les éditions Elor ont été sponsorisées par l'Islande et le Danemark. Ils ont été reçus par les édiles locaux, etc. Donc c'est une très belle réédition. Et normalement ils doivent rééditer l'ensemble de la série, puisqu'il y a
c'est quand même curieux, ces pays qui subventionnent des livres qui racontent des gens qui foutent le camp.
Et vous noterez, Serge, qu'il n'y a pas d'immigrés clandestins en Islande.
Non, il y a peu de gens veulent y rentrer. Alors là, on est en plein cœur de l'actualité. On en parlait à propos de Ben McDonald, qui n'a rien à voir ni avec les restaurants, ni avec les terroristes. Mais là, ça a rapport avec les terroristes et autres. Les pentes, les galères du Christ par
Formidable
Miguel Perrol. Donc, chez Clovis.
Ça, à faire lire, absolument.
Voilà, à faire lire aux jeunes, donc de 12 à 14 ans, pour leur faire découvrir à la fois l'islam conquérant de l'époque, l'islam pirate, barbaresque, et puis la résistance catholique.
Et puis ça finit bien quand même.
Voilà, ça finit bien parce qu'on l'a gagné.
La pâté.
Voilà, exactement. Et puis Aiguë de Pérol sera bientôt l'invité.
Voilà, on va la recevoir ensemble pour parler de son roman, voilà, justement. Ouais, très bien.
Toujours donc de 12 à 14 ans, Guillery de Saint-Gilles par le Prince, c'est donc chez Elor. Et donc c'est une aventure qui se passe... qui est sur deux plans, puisqu'elle se passe au moment de la Vendée et pendant la guerre de 39-45. Donc il y a un passage des deux époques, et avec une comparaison...
Ça, c'est la grande tradition du signe de piste.
Voilà, c'est le signe de piste. Hein. C'est une réédition du signe de piste.
Ah, c'est ça, oui.
Voilà, avec donc effectivement du Joubert. Hein,
oui, du Joubert, toujours là.
Joubert, je regarde les dessins intérieurs, c'est du Joubert aussi, a priori. Oui, c'est du Saint-Clément. C'est du Saint-Clément, c'est pas du Joubert. Enfin,
c'est un élève.
C'est un élève. Voilà. C'est du Joubert. C'est Joubert.
À ce niveau, c'est même presque un clone. Hein,
voilà.
Bien.
Et pour finir, juste pour finir, 14 ans et plus, le livre que Clovis vient de sortir, François Villard, c'est donc le deuxième volume. On n'avait pas pu présenter, je pense, l'année dernière, parce qu'on n'avait pas encore sorti le premier, qui s'appelait le Corbeau de la Loue. Et là, c'est le second volume qui s'appelle Croix en Laponie. Là aussi, on est vraiment dans le Grand Nord. On est abonné au Grand Nord, après l'Islande, la Laponie. Et donc, c'est une très belle histoire qui se passe. C'est un camp qui se passe en Laponie, avec beaucoup d'aventures et une fin qui étonnera. Donc, c'est les 14 ans et plus. Et alors, je voudrais signaler que François Villard dédicacera ses ouvrages, donc Le Corbeau de la Loue et Croix en Laponie. Il les dédicacera à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, 75 05 Paris, le samedi 24 novembre de 15h à 19h. Donc le 24 novembre de 15h à 19h, il dédicacera. Et à la boutique de l'aventure, qui est donc la boutique des scouts d'Europe, 29 rue de Clichy, dans le 9e arrondissement à Paris. Et ça sera le samedi 1er décembre de 15h à 19h. Et je rappelle que tous les livres, les 26 livres que nous venons de proposer, hein, tout d'abord j'ai laissé la liste à Radio Courtoisie, je vais la donner au Libre Journal si des gens demandent au Libre Journal cette liste. Tous ces livres-là, vous pouvez les trouver à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, dans le 5e arrondissement. Et j'ai plus le téléphone, je vais peut-être
donner... 01 43 25 36 67.
Donc librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont dans le 5e arrondissement, avec un vaste choix de livres pour enfants et pour adultes.
Merci monsieur l'abbé. Voilà quelques livres à offrir à la jeunesse. Tenez, je vous les rends parce que je suis un homme honnête et mon honnêteté m'a déjà perdu depuis longtemps.
Alors le Amstramgram, hein,
c'est un cadeau vraiment. Merci. Je suis très sensible à votre générosité monsieur. Concernant Agathe et Louis, compte tenu de la durée des vacances qu'ils prennent rapportée à la durée des vacances scolaires, un calcul sérieux, nous dit un auditeur, montre que bien qu'ayant redoublé 4 fois durant leur scolarité, ils sont sur le point d'achever leur thèse de doctorat d'État. Voilà. Et quant aux auditeurs qui veulent les adresses, eh bien, qu'ils m'écrivent et je leur enverrai la liste, les titres. Je les publierai dans le Libre Journal, ce sera beaucoup plus simple. Je vous enverrai un exemplaire du Libre Journal. Comme ça, vous pourrez vous abonner dans l'enthousiasme et tout le monde sera content. Le Libre Journal, c'est 4 Place France Lille, 75 010, Paris.
Je vais donner ça à monsieur Moliterni puisque c'est des livres illustrés.
Tandis que moi, je peux.
C'est délicat, ça.
Voilà, je suis très touché.
On va recevoir madame Pérol, donc. Oui. Mais ça avec plaisir. Croissons la Laponie.
Alors, ayant reçu ce somptueux cadeau, mon cher Claude, car l'abbé a offert.
J'ai échangé avec monsieur Moliterni, je vais reprendre les petits anges.
Ah.
Et puis je vais lui donner les ventes. Parce que monsieur Fersan a une petite fille, alors il est obligé d'avoir...
Fait le petit cadeau de Noël avant la date.
Très bien.
Donc ayant reçu quand même ce somptueux album d'Agathe et Louis, mon cher Claude, tu vas pouvoir voir.
Ah bah je vais me plonger.
Plonger dedans. Ne commence pas ce soir, parce que tu vas y passer la nuit, crois-moi.
C'est possible. Hein.
Donc tu nous as fait une Bible En bande dessinée.
Oui, il faut revenir un petit peu en arrière. C'est une réédition.
C'est une réédition, c'était une vieille affaire.
1983, mais auparavant, à la fin des années 70, avec un monsieur qui s'appelait Robert Toussaint, qui était le directeur littéraire des éditions Fayard à l'époque, on avait eu l'intention de faire de publier un bouquin, un premier bouquin sur la Bible. Et on l'a publié à 46 pages, la Genèse de Jésus. Ça a très bien marché à l'époque, et puis Robert Toussaint est parti à la retraite, il s'est retrouvé le directeur de Radio Notre-Dame.
Toussaint, c'était la moindre des choses pour ce genre de projet, il ne pouvait pas arrêter ça.
Donc, lorsque je me suis retrouvé dans la grande aventure Pilote et Dargo, quelques années après, en parlant avec Georges Dargo, je lui ai dit, tiens, ça serait bien si on faisait une suite à ce premier album. Et il a sauté à pieds joints sur l'idée, il m'a dit, c'est merveilleux. Donc, j'ai réfléchi sur le dessinateur, voilà, qui pourrait continuer ce travail, et puis je me suis porté sur Blasco, parce que sur Jésus Blasco, bien sûr,
Jésus.
Car son dessin traditionnel correspondait, positive, à mon avis, à un public traditionnel. Donc, après ces 46 pages, j'ai réussi à convaincre Jésus de se lancer
dans l'aventure depuis longtemps.
Oui, oui. Et de
prendre... Il faut dire que le résultat, ça a été positif.
Là, oui, le non. Là, j'ai pas osé le faire.
Le nom de l'abbé,
il n'y a pas de problème.
On est couvert.
Si on passe sur ce chemin, alors on va y aller. Donc, en 83, ce bouquin est sorti. Mais j'avais pas compris, en fait, pourquoi Georges Dargo, l'éditeur, avait été tellement sensible à cette édition. Et après, j'ai découvert qu'il sentait que sa fin était prochaine, peut-être, et que s'il pouvait avoir un passeport pour le paradis, ça serait pas mal.
Ah, oui.
Donc, il m'a demandé, étant donné que j'avais fait la connaissance du cardinal à l'époque de Atchegaray et du docteur en théologie Pierre Gibert, il m'a dit, y aurait-il moyen de rencontrer Jean-Paul II ? Je lui ai dit, c'est quand même pas aussi facile... que vous le croyez, il m'a dit, mais ça serait le plus grand plaisir. Donc j'avais un ami qui s'appelle Bruno Lagrange, qui est très introduit dans ces milieux. Il y a quelques années, il y a encore quelques 20 ans, c'était lui qui présentait la messe sur TF1 le dimanche matin. Et il était rentré chez Dargo pour s'occuper de VPC, comme ça au paradis. Donc il a intrigué au Vatican,
bassement,
en envoyant la Bible. Et, aux stupéfactions, cette Bible est reconnue depuis comme la meilleure Bible en bande dessinée, il faut même le souligner, traduite en 25 langues, en coréen, en japonais, en italien, en espagnol, en portugais, en hindi. Ouais, c'est incroyable le succès de ce bouquin. Et donc, on a obtenu une audience auprès du pape. Et j'ai apporté
la photo,
le document. J'ai apporté
la photo,
parce que
qui prouve la photo de Claude Moliterni, incroyable, avec Jean-Paul,
avec George
avec Dargo, Patrick Verdun,
et on voit que la photo
Georges Dargo,
parce qu'il est encore noir et blanc.
Ouais. C'est vraiment vieux.
Et qui est, alors Dargo, ne perdant pas le nord quand même, se fait bien photographier avec le bras
et
la Bible.
Et alors, le pape était assez occupé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent, mais Georges Dargo, à un moment donné, s'est éloigné avec Jean-Paul II et il lui a parlé à l'oreille. Et il l'a entretenu pendant 4 ou 5 minutes, et c'était l'étonnement général, quoi. Il y avait Monseigneur Martin qui a dit, qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis nous étions impatients de savoir ce que Georges Dargo avait pu murmurer aux oreilles de Jean-Paul II, qui se paraissait tellement séduit. Donc, lorsqu'il est revenu, Georges Dargo m'a dit, Claude, débrouille-toi, trouve-moi la photo, parce qu'on s'était débrouillé pour avoir plusieurs photographes. Mais alors, je lui dis, président, parce qu'on l'appelait président, qu'avez-vous demandé au pape? Ah non, j'ai pas demandé, je lui ai promis quelque chose. Ah bon? Et il me regarde et il dit à son gendre, Patrick Verdun, sa fille, Corinne, et à Madame Dargo qui était là, je lui ai promis de faire l'histoire de la Pologne en bande dessinée.
Oh. Et alors, où elle est, cette histoire de la
Pologne? Je l'ai sortie.
Ça, à mon avis, les portes de bronze
sont, disons, un peu restreintes.
Voilà. Ouais. Donc, voilà, c'est
quoi que Saint-Pierre de lui dire, alors, ça vient, c'est... Oui.
Mais pas trop tard, hein, non, je pense que le gendre Patrick Verdun s'est battu pour que cette bande dessinée existe. Mais hélas, les choses se sont un petit peu modifiées en cours de route. La maison a eu des problèmes.
A connu les problèmes que l'on
a été rachetée par des chrétiens, par des catholiques.
Par des catholiques, oui. Mais
c'est comme ça que ça s'appelle aussi.
Voilà. Et bien, on a eu des problèmes, donc.
Et on s'est retrouvé. Le projet est suspendu.
Voilà.
Mais enfin, maintenant, avec les dessinateurs polonais, ça devrait pouvoir s'arranger assez
bien rapidement.
Bien sûr. Je pense un scénariste comme toi devrait torcher ça en peu de temps.
Peu de temps, bien sûr.
Donc, cette réédition de la Bible en bande dessinée, elle est disponible maintenant ?
Oui, depuis quelques jours. Depuis quelques jours, elle est dans les bacs. Et à mon grand étonnement, parce que quand même c'est une réédition, comme tu sais que je circule bien beaucoup dans les librairies de BD pour voir tout ce qui se passe, elle est toujours très très bien exposée. Et pas plus tard qu'hier, j'étais à la rédaction de Bodoy, qui est le journal d'information maintenant de la bande dessinée, je suis arrivé, il était sur la table, quoi. Il était là, il allait être chroniqué. Donc.
Et c'est très, alors en deux mots, c'est tout à fait traditionnel dans la présentation, dans le dessin. C'est vraiment de la bande dessinée, mais, comme on en faisait, comme on fait toujours, d'ailleurs,
mais en respectant quand même une certaine technique, je précise. Jésus Blasco, pour le situer au niveau de l'histoire de la bande dessinée espagnole, c'est le Hergé espagnol, hein, oui. C'était quand même une grosse pointure.
Oui, c'était un très grand dessinateur. Merci Claude. Tu reviendras nous voir pour parler plus longuement de BD.
Et puis du Festival d'Angoulême. Et
voilà.
Ça sera l'occasion.
Et oui, bien, bien.
Donc fin janvier.
Certainement beaucoup de choses passionnantes à voir. Après tout, Pocard a fait une émission sur le rock. On peut bien se permettre de faire une émission sur la BD, non?
Il y a de quoi faire.
Alors, mon petit Henri de Fersan, je vais vous donner quelques minutes pour me convaincre qu'il faut absolument lire l'Église catholique et le nazisme. Essayez de ne blesser personne, vous m'obligerez. Autrement, vous m'obligerez à couper. Donc, de toute façon, vous m'obligez.
Alors, donc, c'est un ouvrage. Donc, l'Église catholique et le nazisme est un ouvrage que j'ai, une brochure que j'ai écrite avec des sources de première main, essentiellement à tout ce qui a trait à la partie allemande du sujet. C'est-à-dire que, contrairement à certains confrères, que je ne citerai pas de nom pour ne pas les blesser, d'abord, entre autres, parce que j'ai une grande estime pour eux, je ne suis pas basé sur des sources de cinquième ou de sixième main, et je me suis dit, après...
Heureusement que vous avez de l'estime pour eux, parce que...
Non, je m'explique. Pour savoir ce que le régime susnommé pensait de l'Église catholique, le mieux était encore de consulter ses publications. Et entre autres, de consulter les cahiers de cours de ce qui avait été, si j'ose dire, la colonne vertébrale politico-militaire du régime en question. Et donc, à la lumière des documents que j'ai eus, j'ai pu définir ce qui était, à mon avis, le plus proche possible de la vérité historique des relations entre le Troisième Reich et le Vatican, qui n'ont pas été, si elles n'ont pas été aussi désastreuses que le furent les relations entre le Vatican et l'Union soviétique, elles étaient même si désastreuses qu'il n'y avait pas de relation du tout, elles n'en étaient pas non plus spécialement harmonieuses. Donc, en fait, ça a été une cohabitation, je dirais, tant bien que mal, assez houleuse. Là, notamment, donc, il est de bon ton, dans certains milieux, de comparer le chancelier allemand avec son confrère président du Soviet suprême soviétique en ce qui concerne l'attitude de l'Église. Alors là, je m'inscris en porte-à-faux total.
Non, en faux, tout simplement.
En faux, même. Puisque, du côté soviétique, il y a eu volonté d'extermination totale des catholiques et d'éradication totale de la religion catholique sur la surface du sol soviétique et des pays conquis, alors que du côté allemand, il n'y a pas eu cette volonté systématique d'élimination. Bon, certes, je le reconnais tout à fait, que les Allemands ont décapité l'épiscopat polonais.
Mais à la hache, en plus.
Mais au niveau des Polonais, il faut savoir que les prêtres polonais qui ont été arrêtés et persécutés par les Allemands n'étaient pas persécutés en tant que prêtres, mais en tant que responsables de la résistance polonaise. Ce qui était tout à fait différent.
Ça vous ferait une grande différence d'être parlé en tant que prêtre ou en tant qu'éditeur?
Non, mais je pense effectivement la haine entre les Polonais et les Allemands était une haine sous Bismarck. Le polonisme, comme disait Bismarck, c'était vraiment très, très fort.
Heureusement que vous parlez au passé.
Voilà. Alors là, je ne connais pas
je tiens à préciser aussi que le clergé allemand de Silésie a été massacré par les Polonais lorsque les Polonais ont envahi la Silésie en 1945. Et pour eux, notamment, il y a un évêque, Monseigneur Nathan, qui était le prince évêque de Breslau, qui a été assassiné par les Polonais. Et les Polonais n'ont pas vu qu'il était évêque, c'est-à-dire catholique. Pour eux, il était allemand. Point final. Alors, je ne dis pas que sur le plan, si on tient vraiment à comparer Hitler à un personnage historique dans son attitude vis-à-vis de l'Église catholique, je pense que au lieu de le comparer à Staline, ce qui est une aberration historique, on serait, je dirais, ce serait plus juste sur le plan des vérités historiques de le comparer à Napoléon. À savoir un homme qui a signé, un concordat avec l'Église, qui a tenté, vérité historique, il faut toujours voir les choses avec objectivité, qui a tenté d'utiliser l'Église catholique, certaines propositions allemandes vis-à-vis de l'Église catholique étaient animées par la plus pure démagogie, qui a tenté d'utiliser l'Église, qui s'est appuyé sur elle quand il trouvait du répondant, qui l'a combattu quand elle visait, quand elle s'opposait à ses intérêts. Donc, je pense que on peut le comparer à Napoléon, mais certainement pas à Staline.
Eh ben, on va laisser les auditeurs se faire une opinion. D'autant qu'on peut se faire une opinion pour 40 francs, ce qui vaut, ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver. Pour une fois qu'on peut avoir une opinion pour pas cher et qui est la sienne.
Alors cette question m'a valu aussi une célébrité.
Vous devriez le remercier. Konopnicki vous a dénoncé pour ça.
Je l'ai pas lu parce que moi je lis Marianne et j'ai pas vu ça.
Pas dans Marianne. Oui, ça fait depuis un mois maintenant, Guy Konopnicki particulièrement dans le collimateur. Et notamment pour deux de mes ouvrages, L'imposture antiraciste et cette brochure, L'Église et le nazisme, il avait déjà commencé à m'attaquer, à me diffamer pendant trois quarts d'heure à la fête du livre de Brive, le 4 novembre dernier.
Plaignez-vous pour une fois qu'on parle de nous.
Donc en disant de L'imposture antiraciste, mon dernier livre, que c'était le livre le plus dangereux paru en France ces dernières années. Et le plus beau, c'est que à la fête du livre du Naïbris, qui a eu lieu donc le 18 novembre, donc dimanche dernier, Guy Konopnicki a déclaré en parlant de moi, je cite... Alors je retrouve la citation du personnage. « J'ai Henri de Fersan dans mon collimateur. Le combat que je mène contre Henri de Fersan est un combat métaphysique. Incroyable. Celui de la synagogue contre l'Église. »
Et vous vous plaignez,
Monsieur Konopnicki, je tiens à vous remercier. Vous êtes mon meilleur agent de publicité. Voilà. Et je vous promets que si vous continuez comme ça, je vous paye une carte farcie chez Goldenberg.
C'est bien. Merci. Bon appétit. Donc, si vous voulez lire cet ouvrage, L'Église catholique et le nazisme, vous vous adressez 40 francs. Non, 45 francs, puisque c'est...
Non, c'est non, ça avec les frais de port, non, 55 francs pour frais de port.
Ça augmente. Pour 40 francs, ça valait le coup, pour 55... Bon, enfin, bref. 55 francs franco, si on peut dire. À publication Henri de Fersan, boîte postale 18, 63 670, Le Cendre. Merci à tous, merci surtout à Daniel Amiche qui m'a fait cadeau de cette prolongation et que d'une passion qui a gardé un silence digne de Conrad. Je te laisse, Conrad. Merci Daniel.
Eh bien, merci aux auditeurs qui nous retrouvent. Alors, c'est pas la seconde partie, là. C'est vraiment la fin de la seconde partie, on peut dire, ce soir. C'est le con. Non, mais là, Serge m'avait prévenu, m'avait téléphoné gentiment pour me dire que il y avait un petit problème parce qu'il avait encore pris plus de gens qu'il ne pouvait recevoir. Alors, dans ma bonté et ma générosité habituelle, ben voilà, je l'ai accepté. Dites-moi, ma chère Jacqueline. Bonsoir, ma petite Jacqueline.
Bonsoir.
On s'est vu au dîner de courtoisie.
Oui, on s'est aperçu.
Parce qu'on n'a pas eu d'émission depuis, hein. On n'a pas eu d'émission.
Non.
Baissez un petit peu votre micro et rapprochez-vous bien du petit micro. Voilà, Jacqueline. Non, mais ça, c'est des choses qu'on apprend au bout d'un certain nombre d'années. Bon, non, peut-être pour ne pas perdre notre temps. D'ailleurs, je voudrais saluer la présence dans le... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais attendez, on va y arriver tout de suite. Là, mais je vais quand même saluer quand même mon invité, quand même, avec votre permission.
Pardon,
alors je salue notre ami Yves Griffon, historien, qui vient nous voir et nous entretenir de son dernier livre, qui est un recueil de
un recueil d'articles, en fait, qui ont paru dans différentes revues, mais qui étaient dispersés par Mons et par Vaux. Et c'est une bonne idée que d'avoir eu l'idée de recueillir, de rassembler, de faire un recueil de ces articles. Alors, ça s'appelle Pages d'Histoire, Pages au pluriel, sous-titré de Jeanne d'Arc à Charles X, avec une belle préface de notre camarade Yves Chiron, hein, qu'on n'entend pas souvent sur Radio Courtoisie, parce qu'il veut pas beaucoup sortir de son Poitou. Je sais pas, il est dans le Poitou, non, je sais plus dans quel... Non, 50.
Il est dans le Berry.
Dans le Berry. Ah oui, il est dans le Berry, c'est ça. Alors, il vient pas souvent à Paris, puis il dit, moi, j'avais essayé de l'appeler, de l'inviter à venir, et puis, non, moi, je suis très timide au micro.
Il est, non seulement historien, mais professeur d'histoire.
Oui, tout à fait. D'où puis, c'est un garçon. Oui, puis c'est un garçon de grande qualité en plus. Bon, mais j'aimerais qu'on ne l'entende pas suffisamment sur Radio Courtoisie. Alors, ma petite Jacqueline, donc ce soir, qu'est-ce qui va se passer? Nous recevons donc Griffon, nous allons parler avec lui de son ouvrage. Et puis, nous allons avoir, nous devions avoir en principe notre bonne camarade Cécilia Dem, et point de Cécilia pour l'heure. Mais en tout cas, elle a enregistré un petit entretien qu'elle a eu. Alors là, j'essaye de lire parce que c'était très compliqué avec Giusy Ferrari et Marie-Jo Perron, qui sont toutes les deux professeurs d'art floral. Ah ben voilà, ça y est, elle arrive. Elle a son chapeau sur la tête encore. C'est très bien. On va la faire venir dans le sein des saints. Alors, en attendant que Cécilia s'installe, eh bien, ma chère, vous allez peut-être nous dire trois petites nouvelles.
Absolument. Les rencontres culturelles de Paul Bilaire. Alors, le samedi 24 novembre, c'est samedi prochain, Joséphin Péladan. Vous connaissez?
Oui, Péladan, oui, le sage, le mage. Non, c'est pas ça, non?
Ah, écoutez, je ne sais pas. Pas un mage, j'ai regardé dans le dictionnaire.
Le sar, machin truc.
Et il n'y était pas. Alors, rendez-vous à 14h45, café Le Lorrain, 77 boulevard de Strasbourg, métro Gare de l'Est. Donc, le samedi 24 novembre, Joséphin Péladan.
C'est ce samedi.
14h45, 77 boulevard de Strasbourg, Gare de l'Est pour le métro. Et le samedi 1er décembre, Saint-Jacques du Haut. Du Haut-Pas. Au lieu du jansénisme, rendez-vous à 15h, cette fois, 252 rue Saint-Jacques, métro Luxembourg. Donc ça, c'est pour le samedi 1er décembre, Saint-Jacques du Haut-Pas, au lieu du jansénisme. Rendez-vous à 15h, 252 rue Saint-Jacques, métro Luxembourg.
Très bien.
Ensuite, à l'occasion de la solennité de Sainte-Cécile, la Scola Sainte-Cécile de Sainte-Eugène interprétera la grand-messe solennelle de Sainte-Cécile de Charles Gounod lors de la grand-messe paroissiale le dimanche 25 novembre 2001 à 11h. Et c'est dans la paroisse Sainte-Eugène Sainte-Cécile, 4 rue du Conservatoire dans le 9e arrondissement.
Ça va être magnifique.
Donc le magnifique. 25 novembre, le dimanche 25 novembre à 11h, paroisse Sainte-Eugène Sainte-Cécile, et ce sera la grand-messe solennelle de Sainte-Cécile, interprétée par la Scola Sainte-Cécile de Sainte-Eugène. 4 rue du Conservatoire.
Magnifique.
Et la dernière annonce, oui. C'est l'association Cercle Saint-Dagobert 2 et Suresnes Loisirs Animation, qui propose le samedi 24 novembre 2001 une conférence. L'entrée, c'est gratuite. À 15h, donc le samedi 24 novembre, conférence donnée par Monsieur André Cherpillon, et le thème c'est Histoire et civilisation des premiers Mérovingiens de Clodion à Clovis.
Remarquable, ça c'est quand même rare comme conférence. Hein?
Voilà.
Ma petite Cécilia, c'est quand même très rare ces choses.
Voilà, le samedi 24 novembre.
Un point numéro de téléphone des fois pour que nos auditeurs qui souhaiteraient assister à cette chose-là contacter. De l'autre, peut-être,
oui, un petit numéro ici. Là. Renseignement et réservation, téléphone 06 09 47 04 43. Je recommence.
Oui.
06 09 47 04 43.
Merci, ma petite Jacqueline. Merci. Alors, donc, je salue l'arrivée dans le studio inopiné. Nous ne comptions plus sur vous, chère Cécilia Dem.
Bien sûr que là, ça va être très difficile.
Oh, je me dis, ça y est, elle ne viendra plus. Elle va nous abandonner. Alors, on avait déjà tout calé, nos histoires. Mais enfin, bon, tout va très bien se passer. Donc, vous venez nous parler un petit peu de livres, mais attendez un petit peu plus tard, parce que ce sera vraiment à la fin.
On va commencer.
Et puis après, on va passer un bobino avec, donc, je répète, une interview de Giusy
Ferrari.
Et Marie-Jo Perron,
était là comme interprète. Giusy Ferrari est italienne, et on a préenregistré son entretien parce qu'elle était de passage il y a environ un mois.
Magnifique. Ouais. Très bien. Donc vous aurez tout le temps de
Je dis quand même bonsoir aux auditeurs.
Merci. Je vous reconnais là bien, ma petite camarade. Alors, cher Yves Griffon, comment est-ce qu'on trouve de l'intérêt à l'histoire? Qu'est-ce qui vous a, parce que bon, alors vous avez publié
un livre. Là, c'est votre second ouvrage, en fait. Bon, vous avez publié un livre qui est sur sur Charles X, le roi méconnu.
Deux éditions.
Est-ce que le livre est encore disponible? D'ailleurs, quelqu'un m'a demandé ça l'autre jour.
Je crois qu'il y en a encore un peu.
Encore un petit peu chez l'éditeur. C'est édité par qui?
Par Rémi Perrin.
Rémi Perrin, donc le camarade Rémi Perrin. Donc Charles X, le roi méconnu, qui est un livre qui a eu un certain succès d'estime, et il y a eu quand même beaucoup de gens qui l'ont lu et beaucoup de gens qui ont, grâce à ce livre,
et j'ai eu beaucoup de recensions.
Oui, pas mal de recensions, et surtout une autre approche de Charles X, comme un roi qui est pas seulement méconnu, mais qui, quand il est pas connu, il est quand même très calomnié, il faut dire les choses.
Pratiquement, Charles X, c'est les ordonnances, et puis c'est
voilà,
tout.
C'est tout.
C'est un peu court.
Alors. Page d'histoire, donc recueil d'articles que vous avez publiés dans différentes revues, mais ça fait longtemps que le goût de l'histoire vous est venu.
Je suis né en 25 et en 38, c'est-à-dire que j'avais 13 ans, j'ai lu avec admiration le siècle de Louis XV de Caxotte. Ça a été le commencement. Ça m'a ouvert des horizons et ça n'a jamais cessé ensuite de m'intéresser. D'autant que
Oui, on vous écoute.
D'autant que, étant dans une école catholique, le prêtre, il n'avait pas pour les rois de France une admiration sans nom. Et j'ai compris que on faisait erreur. Et puis ensuite, la guerre est arrivée. J'ai dû quitter le collège, parce que mon père était joaillier, que j'ai dû l'aider. Et j'ai eu un précepteur, qui était un géorgien, qui était remarquable, qui a compris que j'étais nul en mathématiques, et qu'on a fait lettres et histoire. Et puis j'ai fait ensuite ma philo avec Doja à 22 ans. Je crois qu'on fait trop tôt cette philo.
c'est magnifique.
Mais je n'ai jamais cessé de lire. Et bien, surtout, en revenant, je ne veux pas raconter ma vie, mais nous avons été à Nantes après l'Orient, puis ensuite nous sommes venus à Nantes en 45, et il y avait une librairie importante qui s'appelait Beaufreton à Nantes. Et le libraire cherchait quelqu'un pour diriger son cabinet de lecture. J'ai donc été présenté. Il m'a posé la question sur Charles XII. Or, je venais de lire Charles XII de Voltaire. J'ai été reçu et j'ai été pendant 2 ans directeur du cabinet de lecture. Donc, j'ai mis beaucoup de bouquins. Voilà.
C'est extraordinaire.
J'ai vécu dans...
Dans les livres. Dans les livres d'histoire.
Et on n'a jamais pris de télévision. On ne peut pas lire et regarder.
Non, c'est que c'est compliqué. Et vous continuez encore à lire
Tout le temps. Tout le temps.
Vous allez en bibliothèque, vous...
J'ai des tas d'amis, j'ai des tas de livres que j'achète, que c'est ma petite... Je lis notamment des ouvrages d'Yves Chiron qui a écrit beaucoup de choses, mais il y a bien d'autres choses.
Ben, c'est extraordinaire. Alors là, racontez-nous un petit peu la genèse de ce livre-là, parce que c'est une bonne idée de faire un recueil d'articles.
L'idée en est venue de différents par amitié. Il lui a semblé regrettable, parce que vous venez de dire à l'instant, que ce soit éparpillé et perdu. Alors, ce ne sont pas tous mes articles, mais ce sont
une partie, en tout cas,
plus important. Bien sûr que sur lui, sur Charles Quint, l'autre visage de Charles Quint, ne va pas plaire à tout le monde. Parce que Charles Quint s'allie et voit que c'est une affaire pas commode. Seulement Charles Quint s'est conduit à l'égard de François Ier d'une manière abominable. Enfin, quand un souverain prenait un prisonnier un autre souverain, il l'installait dans un château ou dans 4 pièces. Il l'a mis dans une cellule. Cet athlète a failli mourir. Il a été sauvé par l'Eucharistie.
Mais vous savez ce qu'on dit d'ailleurs sur Charles Quint, je ne sais pas si c'est vraiment. Enfin, j'ai lu ça sur François Ier quand il a été, c'est après la bataille de Pavie qu'il a été fait prisonnier. Donc en Italie, il a été transféré en Espagne. Et il semble que sur tout le trajet qui l'emmenait dans sa prison, alors je suppose c'était Madrid ou Tolède, ou je ne sais pas où il était, à Madrid. Bon, les foules espagnoles se pressaient pour se faire toucher par le roi de France.
Oui, parce qu'on savait qu'il guérissait les écouelles. Mais c'est en Madrid où ça a été abominable, parce que c'était une cellule. Il allait mourir. Sans la grâce de l'Eucharistie, il mourrait.
Ouais. Curieux, quand même.
Bien sûr, tout le monde s'insurge, le grand Turc, c'est possible, enfin, il est devenu protecteur des lieux saints.
Bien sûr. Alors là, il y a tout un débat là-dessus, d'ailleurs, pour en avoir, moi, j'ai une thèse qui est pas très très loin de la vôtre, parce que, évidemment, par cette alliance, entre guillemets, bon, c'est vrai qu'il y a des choses quand même qui sont choquantes pour des catholiques, on l'a vu quand même, bon, la flotte turque, radoubée à Toulon, c'est quand même, Toulon qui avait été vidé de ses habitants, d'ailleurs, hein, tout le monde était était parti. Mais d'un autre côté, c'est grâce à ça aussi que on appelle ça les capitulations, n'est-ce pas, hein? C'est tout ce qui protège les.
Et puis alors, on oublie un peu trop. Je crois qu'on parle beaucoup de la Saint-Barthélemy, mais on oublie le sac de Rome, oui, sur l'ordre de Charles Quint.
Bien sûr, tout à fait.
Qui est une horreur, qui dépasse de beaucoup le Saint-Barthélemy. Oui, oui, c'est trop facile.
Alors, plein de personnages et plein de moments de notre histoire jalonnent votre livre.
J'ai voulu aussi parler, car ça m'a semblé important, sur cette faute considérable du roi Louis XVI, de rappeler les parlements que son aïeul avait chassés. Louis XV est un prince remarquablement intelligent, qui avait senti que la révolution était en gestation dans les parlementaires. Il a donc appelé Maupoux, il a renvoyé le parlement, et la première chose que fait Louis XV, c'est de rappeler l'ancien parlementaire. Il amène la révolution, si je peux ainsi parler.
C'est pas faux, oui.
C'est une
des causes lointaines de la révolution, c'est le rappel des parlements.
Mais considérable. Une faute grave.
Merci. Merci, non, parce que Franck, comme il y a un enregistrement, il va falloir qu'on cale très bien pour que l'émission rentre dans les 3 heures.
Vous savez tous les articles que j'ai pu faire, mais j'ai voulu parler aussi de...
Alors, vous parlez, par exemple, il y a le premier, alors, il y a un article sur, Charles VII a-t-il abandonné Jeanne d'Arc? Ça, c'est un thème qui est beaucoup débattu. Oui. Alors, en fait, il faut expliquer pourquoi.
Parce que tout ça, il était mal influencé quand elle a été prise. Là, il aurait dû agir. Mais ensuite, c'est un procès d'église. Le roi ne peut pas intervenir dans un procès d'église. Et quand ensuite il a voulu intervenir, Rome a été très sévère en précisant que seule la famille pouvait intervenir. Or, à ce moment-là, Charles VII n'était plus le petit roi de Bourges, c'était le victorieux. Il a fallu beaucoup d'humilité.
C'est extraordinaire, d'ailleurs. Alors, le scandale de Metz.
Ah, le scandale de Metz...
Août 1744, c'est Louis XV.
Je crois quelques-uns, parce que Le roi était très bien, avait une maîtresse à ce moment-là, Madame Chateau, et elle a failli mourir. Et alors, les évêques ont exagéré. Le bourgeois de Paris dit qu'il suffisait que le roi soit humble et regrette et qu'il se confesse et qu'il retrouve la reine. Mais alors, ils ont fait une chose épouvantable. On a propagé dans toutes les églises que le roi était indigne, enfin, ce que aucun souverain n'avait fait. Ou alors, qu'est-ce qu'aurait dit Henri IV, alors, lui?
Parce qu'il a eu, à Metz, donc rappelons que Louis XV a eu une grave maladie, quelque chose.
Il a failli mourir.
On pensait qu'il allait passer. Et il y a eu quand même, je dirais, donc, de la part du clergé, un chantage.
Un chantage excessif.
Un chantage à l'extrême onction.
C'est ça. Ouais. Alors, il s'est guéri. Et ensuite, comme toujours, Louis XV, calmement, a remis les choses au point. Les gens qui étaient dans leur domaine, et l'évêque abominable, enfin, restait dans son évêché avec l'ordre de ne pas en sortir.
De ne pas en sortir de préférence, oui.
Et bien, j'ai voulu aussi parler de ce grand ministre dont on ne dit jamais beaucoup de bien et qui s'appelle...
L'abbé Terray.
Oui, qui n'était pas savé d'ailleurs, puisqu'il n'avait eu que la tonsure, et que c'est pas un saint, mais c'est un très grand ministre des Finances. Tout ça, je l'ai appris en lisant un grand bouquin. Vous savez, ce n'est pas moi qui fais les choses, ce sont les autres qui font les choses pour moi.
Quelque sorte, mais enfin quand même, vous n'y êtes pas pour rien quand même.
J'ai beaucoup lu et un peu retenu.
Vous avez beaucoup lu et beaucoup retenu, je trouve. Oui. Alors donc, il y a toute une série d'articles, on verra, il y a des articles
sûr, c'est pas 4 siècles, c'est pas 4 siècles.
Non, c'est réparti sur 4 siècles, mais enfin, n'exagérons pas. Mais il y a aussi Charles VII face à la rébellion des princes, ça m'a très passionnant.
Ça m'a très, très surpris, ça. Parce que on m'avait donné un Charles VII mou, si vous voulez. Jeanne d'Arc partie, il y avait encore beaucoup à faire.
Encore à faire, bien sûr.
Beaucoup à faire, et il a fait beaucoup. Alors, il a eu un très bon connétable, enfin, faut pas nous exagérer avec le connétable, il n'a pas tout fait, le connétable, il était connétable, et puis c'est tout. Quand il a été duc de Bretagne, il a été assez odieux.
Alors, un article très intéressant, parce qu'on en a parlé un tout petit peu, enfin, on a évoqué le sujet dans la partie précédente, c'est Bonaparte et l'Église, hein, les articles organiques, ça c'est très 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 intéressant. Vous avez fait aussi un article copieux sur le prince de Condé, le duc d'Enghien.
Le duc d'Enghien, oui.
Effectivement. Et un article tout à fait passionnant sur la restauration, donc la restauration des Bourbons et la renaissance du catholicisme.
On n'imagine pas le bien qui s'est passé,
ça, c'est sûr.
Le bien qui est fait à l'Église en 15 ans. Vraiment, c'est pas croyable. C'est parce que, tout simplement, sur les rois, et notamment Charles X, à une foi profonde, comme souvent ceux qui ont beaucoup péché, quand ils reviennent, oui, oui, ils sont très, très profondément chrétiens.
Jean-Louis
aussi. Il a été converti au lit de sa maîtresse.
Oui. Enfin, on verra la différence qu'il y a entre le concordat de, imposé par Napoléon et la charte, les dispositions de la charte par rapport à la religion catholique. C'est très, très différent.
C'est très différent.
Pas le même esprit.
Pas le même esprit du tout.
Alors, votre livre, donc, Yves Griffon, page d'histoire de Jeanne d'Arc à Charles X. Alors, bon, c'est pas l'histoire de Jeanne d'Arc à Charles X, hein. C'est des pages d'histoire, dont des articles sur des périodes qui s'étendent de Jeanne d'Arc, de Charles VII. On aurait pu dire de Charles VII à Charles X, en quelque sorte, avec une préface d'Yves Chiron. C'est publié à Sicre Éditions Paris. C'est un volume qui fait 160 pages, 139 francs. Alors, on le trouve où? Bah, on le trouve chez nos libraires habituels, c'est-à-dire à Duquesne Diffusion. On le trouve à la librairie France Livre, rue du Petit Pont, donc Duquesne Diffusion, 27 avenue Duquesne. Et puis, on le trouve chez l'éditeur aussi, Sicre Éditions, 22 rue Didot, Paris 14e. Vous vouliez dire quelque chose, ma petite Jacqueline, mais rapidement, là?
Non, pas non spécialement. Non.
Vous êtes sûr? Non, il n'y a pas quelque chose qu'il fallait rappeler?
Oui, il faut rappeler, absolument.
Alors, faisons-le.
Le jeudi 22 novembre, Yves-Marie-Adeline...
Encore?
Bon, il y aura une réunion de l'Alliance, donc l'Alliance Royale, à 20h à Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne. L'adresse, maison des combattants. Maison des combattants, 73 avenue Diderot, très proche de l'hôtel de ville.
Très bien,
donc c'est demain soir à 20h. Voilà.
Parfait, une conférence de Marie.
On vous demande encore des nouvelles de Marie.
Ça viendra, j'ai eu un mail, donc voilà, on aura bientôt des nouvelles de la petite bon. Marie. Merci cher Yves Griffon, donc je rappelle le titre de votre livre, Page d'histoire de Jeanne d'Arc à Charles X, avec une préface, une belle préface de notre camarade Yves Chiron, que j'espère un jour pouvoir recevoir à cette antenne, parce qu'il le mérite. Il nous a fait quand même du bon travail. C'est nous qui vous remercions de tous ces beaux textes, de la passion de l'histoire qui vous anime et que, par vos livres, vous transmettez aux autres, quoi. Donc, c'est parfait.
Ce que j'ai moi-même reçu.
Voilà, je transmets ce que j'ai reçu. Merci, cher Yves Griffon.
Merci beaucoup.
Et alors maintenant, je passe rapidement. Alors, on va peut-être pas mettre votre petite musique ce soir parce qu'on n'aura pas le temps. Hein. Il nous reste combien? 5 minutes pour présenter deux livres. Et puis après, on va vous entendre parler.
Vous voulez que je présente mes livres d'abord?
Oui. Ah bah oui.
Je les avais choisis pour rester en Italie après l'entretien avec Giusti.
Non, après ça, l'entretien arrêtera notre émission.
Alors, j'ai d'abord Les Fleurs de Virgile de Solange et Jean Maya, dont nous avions présenté au mois de janvier dernier Les Fleurs, les Plantes de la Bible.
Oui.
C'est un très, très joli petit livre, vous pouvez le regarder, qui présente les fleurs dont parle Virgile dans ses œuvres bucoliques, Géorgie, Énéide. Alors, les auteurs s'intéressent évidemment d'abord à l'œuvre, à l'homme et à son œuvre, parlent des problèmes d'identification, parce que Virgile était un poète plus qu'un naturaliste rigoureux. Et ils énumèrent ensuite, en certains très jolis chapitres, les principales plantes, fleurs, chantées par Virgile et qu'on trouve encore en Italie. Il est accompagné d'un triple index, texte, traduction et photos, parce que les photos aussi sont très nombreuses et très jolies. C'est très raffiné comme petit livre. Il est donc édité aux éditions Le Sureau et il coûte 85 francs 27.
C'est très, très, très joli. C'est une idée, magnifique.
Et le petit mot de l'auteur en me l'envoyant me souhaite qu'il me soit d'une lecture agréable. Je pense qu'il ne peut qu'être d'une lecture agréable à quiconque l'ouvrira.
Alors il y a du latin traduit, c'est très important quand même. Hein. Il y a des
qui nous maintient aussi en Italie, qui s'appelle Souvenir d'Éden, sous-titre Les Jardins secrets du Vatican. Ce sont essentiellement des photos de Jean-Louis Soularue aux éditions Ivoire Clair, Ivoire trait d'union Clair. Alors, ce sont des prises de vue de coins extrêmement secrets des jardins du Vatican et extrêmement originales, surtout en noir et blanc, très peu en photo, quelques détails de plantes absolument remarquables. Et le seul texte, enfin, à part la préface du cardinal Poupard et la postface du père de Lépine, curé de Saint-Roch, donc curé jardinier lui aussi, c'est le texte de la Genèse. Il lut un soir, il lut un matin, qu'on entend tous à la veillée pascale. Alors, je donne vite, parce que on nous fait signe, je donne vite le prix de ce livre.
C'est
154 francs 15.
Voilà, 154 francs 15, parce qu'évidemment, maintenant, les prix sont en euros.
Il y a une exposition à Rome de ces photos et d'autres, du même Jean-Louis Soularue, à la Galerie du Centre culturel Saint-Louis de France, qui se tient jusqu'au 7 décembre 2001. Les gens qui se trouvent à Rome peuvent se renseigner et aller admirer ces merveilles.
Très belle idée. Alors vous avez encore deux petites minutes.
J'avais deux ou trois petites autres annonces.
Donnez-nous une belle annonce.
Alors, Hortilivre, le troisième salon du livre d'horticulture et du jardinage, à la Société Nationale d'Horticulture, rue de Grenelle, 84 rue de Grenelle, se tiendra samedi 8 et dimanche 9 décembre 2001, de 10h à 19h, et le dimanche de 10h à 17h, et l'entrée est libre. Il y a de très nombreux auteurs pour signer leurs livres et de très très nombreux ouvrages.
Encore une petite annonce, on a encore deux petites minutes.
Alors on va faire plaisir à une de nos amies, qui est peintre, qui est ancien professeur d'art floral et qui est devenu peintre d'aquarelle et qui peint de très beaux bouquets, et elle expose ce qu'elle appelle « mes bouquets d'émotions » jusqu'au 28 décembre dans un établissement qui se nomme bizarrement The Garden, je suis désolée, 53 route de Mantes à Chambourcy, le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h. C'est fermé le dimanche, ce qui est idiot pour pour une chose de jardinage. C'est un magasin apparemment d'articles de jardinage qui se trouve donc sur la Nationale 13. C'est très bien, je n'y suis pas allée encore, mais c'est bien fléché.
Indiqué, bon.
Par contre, les œuvres de Michel, je les connais et je l'inviterai un jour à ce micro pour nous en parler parce qu'elle en parle très bien.
Avec plaisir.
Encore une petite,
allez.
Alors, une qui peut être amusante.
Vous avez de la chance, hein.
Oui, ce soir, oui, je suis gâtée. À la librairie du patrimoine Jardin, au pluriel, qui se trouve à la grille d'honneur du Jardin des Tuileries, qui est vraiment un endroit extraordinaire quand on s'intéresse aux plantes et à l'horticulture. En plus, la libraire est tout à fait charmante. On peut rencontrer le 11 décembre prochain, de 17h à 20h, Claude Bureau. Alors, Claude Bureau est un personnage extrêmement pittoresque, dont vous avez ici la photo. Il est chroniqueur horticole et maître jardinier au Jardin des Plantes de Paris. Et il donnera une conférence sur le thème des jardins ouvriers et familiaux.
Et ben voici.
Donc, place de la Concorde, le vendredi 11 décembre, entre 17h et 20h.
Voilà. Et maintenant, nous entendons donc l'entretien que vous avez enregistré entre
Donne rendez-vous aux auditeurs le 12 décembre. Nous parlerons de cadeaux.
Et nous entendrons la semaine prochaine pour 3 heures, que d'ici là, bien sûr, que Dieu nous garde.
Je salue les auditeurs, je ne leur dis pas bonsoir car nous sommes en pré-enregistrement le 20 octobre, et cette séquence doit être diffusée le 14 novembre, donc ce soir en principe. Bonjour Yuzi Ferrari, et merci d'être là parce que vous êtes en France, vous êtes italienne, vous êtes en France pour une série de stages tant à Versailles qu'à Saint-Cloud avec beaucoup de petites fêtes autour, et vous avez accepté entre une visite au Louvre et une soirée hier soir chez une amie de consacrer quelques instants à Radio Courtoisie pour nous parler de l'art floral italien. Et vous aurez l'aide, bien que vous n'en ayez guère besoin, de Marie-Jo Perron, que nos auditeurs connaissent déjà, puisqu'elle est venue nous parler une fois de son expérience d'enseignement en faculté de médecine, c'est ça Marie-Jo, d'art floral.
En fac de sciences, à Sancier, où j'intervenais pour l'art floral avec des personnes qui faisaient partie d'un personnel médico-social.
Voilà, vous formiez un personnel médico-social qui a ensuite utilisé plus ou moins l'art floral comme thérapie.
Voilà, c'était dans le cadre de séances, de programme d'ergothérapie.
Vous étiez venu nous parler aussi de votre responsabilité actuelle auprès d'hôteliers, de restaurateurs et de cafetiers qui distraient une partie de leur temps pour apprendre à fleurir leurs établissements pour qu'ils soient accueillants. Et je trouve ça extrêmement sympathique. Et j'espère qu'un jour, nous pourrons accueillir un groupe de ces
dans le cadre de la formation continue des restaurateurs a lieu au siège 4 rue de Grammont, Paris 2e.
Et étant donné que l'italien est pratiquement votre seconde langue maternelle,
Eh bien, vous assisterez Giusi, ça veut dire Joséphine, n'est-ce pas?
Joséphine,
en cas de
oui.
besoin. Alors, Joséphine, vous êtes de Brescia, vous êtes professeure d'art floral, juge, démonstratrice. Oui. On vous appelle dans le monde entier, puisque vous rentrez de Krasnodar.
le monde entier, c'est
de Memphis aux États-Unis. Oui. Et en ce moment, vous étiez donc sur Versailles-Saint-Cloud.
Dites-moi, elles travaillent bien, nos petites amies de Versailles-Saint-Cloud?
Oui,
ça va.
J'ai toujours admiré l'art floral français, mais j'ai vu que mes élèves, dans cette circonstance, étaient vraiment bien préparés.
Très bien, merci pour elle. Alors, vous êtes venue à l'art floral un peu tardivement, bien qu'ayant toujours aimé les fleurs, m'avez-vous dit?
Oui, jusque quand j'étais petite femme.
Enfant,
j'aimais les fleurs parce que ma mère avait toute la maison toujours avec des fleurs simples de la campagne. Mais j'ai toujours vu des fleurs et alors toujours je l'ai aimé.
José me disait hier que même petite fille, elle prenait des pots à yaourt dans lesquels elle se faisait en classe des bouquets individuels.
Voilà, pour son bureau personnel. Mais elle en offrait quand même à sa maîtresse.
Oui.
Et elle prenait aussi des plaies et bosses pour aller chercher des fleurs dans des coins un petit peu escarpés. Et alors ensuite, vous êtes devenue l'art floral après avoir élevé vos 4 enfants.
Oui.
Et là, vous y êtes mise complètement. Vous avez donc... Alors donc, vous êtes de Brescia.
Oui.
Mais vous êtes en lien avec tout ce qui se fait en art floral à travers l'Italie, Gênes, et vous m'avez dit que vous consacriez actuellement 5 jours par semaine à voyager dans le nord de l'Italie. Vous pouvez citer les villes que vous visitez ainsi? 5 jours vrai. Chaque semaine, c'est quelque chose d'effarant.
Oui, c'est vrai.
Alors, vous allez à Vicenza,
Milano, Brescia, Trento, Rovereto, Aldeno, et voilà.
Voilà. Alors, si on ajoute à ça les démonstrations ou les actions comme juge dans les concours internationaux, ça fait
pas international.
Pas international, à travers l'Italie. Ah, mais ça va venir, bien sûr, quand même. Alors, le présent, l'art floral italien actuellement a quand même une caractère. Bon, les bouquets historiques sont admirables, sont beaux. Vous avez un patrimoine artistique tellement riche que de toute façon, vous n'avez qu'à puiser dedans. Mais il y a quand même quelque chose d'un peu particulier en Italie. Vous êtes un petit peu la locomotive des autres en art floral contemporain.
Oui,
c'est vrai. Alors, pouvez-vous nous parler un petit peu, parce qu'il est quand même assez solidement codifié maintenant.
Oui, je pense que les modernes italiens soient le seul qui a codifié toutes les catégories de l'art moderne. Il y a la moderne des lignes, où la ligne doit être bien présente.
Oui, oui.
La catégorie du moderne livre, où
libre,
libre,
d'accord,
oui. Où tout le monde est libre en respectant les règles de la composition moderne, qui est basé sur le contraste, le contraste du forme, de la couleur, des espaces, voilà, de faire ce qu'il veut. La composition des masses, qui est une spécialité de l'Italie, des masses en forme diverses et des masses avec de l'espace, et puis de l'abstrait. Et alors, c'est bon parce que didactiquement, et c'est plus facile de bien expliquer quand il y a la ligne, quand il y a des autres catégories.
Et oui, alors, c'est d'ailleurs, on s'est trouvé assez déconcerté.
Un petit peu, oui.
Parce que je pense qu'en France, on n'a pas appliqué ces règles au départ.
Non. Et puis il y a des disputes de chiffonnier justement autour de
Non, parce que hier, enfin, José expliquait vraiment avec précision. Et on sent que ça nous manque.
Oui.
Mais naturellement, cette classification est pour bien expliquer. C'est pour la didactique.
Voilà. Et ensuite,
Parce que naturellement, on est libre de faire ce qu'il veut.
Mais tout en respectant quand même ses règles de base.
De base,
qui ne sont pas obligatoirement établies chez nous.
Elles ne le sont pas.
Chacune a les siennes. Alors évidemment, en cas de rencontre,
mais il y a quelque chose qui est pour tout le monde.
Voilà.
Et alors, en respectant la règle que dit qu'elle est moderne, que ce soit italien, que ce soit français, quel qu'il soit, on doit toujours respecter l'auteur plus ou moins. Il y a des règles précises tout.
Bien sûr.
Et alors,
mais toujours en fonction du contenant, les règles de hauteur, de largeur, de profondeur.
Oui, ça, de toute façon,
mais
ça c'est universel.
S'appliquant à un style très défini.
Bien défini. Et je crois que ce style, excusez-moi.
Non, ce n'est pas une limite, je crois. C'est seulement pour faciliter pour les élèves à comprendre. Mais l'élève peut faire ce qu'il veut quand il fait la composition.
Hier à Saint-Cloud, c'était très varié.
Ah oui. C'est seulement plus facile d'apprendre. Je crois qu'il n'y a pas de différence. Le style moderne de la France, c'est très, très, très bon. Seulement l'italien est plus
rigoureux.
Voilà.
L'événement qui s'est déroulé à Gênes au mois d'avril, ce colloque-là, était justement centré sur cela, sur l'art contemporain, moderne, et il y a eu des séminaires autour. Est-ce qu'il en est sorti quelque chose, ou est-ce que ça aurait été des discussions stériles, ou à l'infini?
Un petit peu. Parce que chaque pays a dit le mien c'est
le meilleur.
Alors, mais quelque chose est sorti parce que tout le monde a dit bien la rigueur c'est une bonne.
C'est quand même en matière artistique évidemment. Et vous allez publier quelque chose à la suite de ces discussions ou ce sera simplement pour celles qui étaient là qui ont pris des notes?
On peut publier un petit livre avec toutes les discussions.
Une sorte de guide. Vous allez le faire.
La Madame Rosnella Caiello l'a fait.
L'a déjà fait. Très bien. Parfait.
Vous en avez parlé à Bruxelles, en Belgique?
Je ne sais pas.
Lors des juges?
Non. Il y avait d'établir les règles pour bien juger à Bruxelles. Oui, c'était une autre chose.
Mais d'abord, savoir bien juger, c'est savoir ce que l'on juge.
Oui, déjà, oui.
Elle va sortir un livre aussi.
Alors, il est justement.
Tu vas sortir un
livre.
Oui.
Alors, il y a d'abord le livre de. Alors, l'IDFA, comment s'appelle
IDFA. IDFA. C'est l'école, la première qui a fondé l'école en Italie. Et la Sanremo. Et la dame qui l'a fondée, le nom, c'est Rosnella Caiello.
Et nous la connaissons bien, oui. Alors, ce livre est sorti au moment du colloque de Gênes.
De Gênes, oui.
Vous ne l'avez pas apporté, c'était un peu encombrant par avion, mais il reprend quand même les bases de ce genre de composition, ou est-ce qu'il est un peu plus varié, puisque un certain nombre de collaboratrices y ont participé, dont vous, d'ailleurs vous avez 5 ou 6 compositions. J'appelle plus ça des bouquets, ce sont pratiquement des sculptures.
C'est vrai.
C'est vrai. Donc, il faudra que nous en reparlions de façon à indiquer à nos auditeurs où ils pourraient éventuellement se le procurer. Vous en sortez un demain, qui est un petit peu plus particulier et très amusant, à mon avis.
J'ai collaboré avec mes compositions avec un livre qui parle de les pommes. De les pommes traitées au naturel. Il y a des recettes.
Les recettes en anglais.
Des recettes.
Recettes de la cuisine. Et il y a des menus pour tout le où, excusez-moi, on prend les pommes et fait de la cuisine à partir de le premier plat, la pâte avec le riz, avec les pommes et puis pour les desserts. Oui. Voilà.
Et vous, vous êtes intervenu avec des compositions.
Et j'ai fait des compositions d'atmosphère. Toujours avec les pommes.
Alors, et là aussi, nous en reparlerons, parce que ça, je pense que ça pourrait intéresser nos auditeurs. Il s'agit de pommes, évidemment, cultivées biologiquement.
Oui.
Et ça rappelle un peu, Marie-Jo, notre association des croqueurs de pommes en France.
Absolument. On a recherché des variétés qui étaient perdues, ou en voie de perdition.
Qu'on retrouve. Et qui ont un goût,
Et tu as un autre livre aussi concernant uniquement les bouquets?
Oui, mais
elle ne veut pas encore en parler.
Parce qu'il n'est pas...
Il est bien élaboré déjà.
Oui, d'accord. Oui. Eh bien, il faudra nous l'envoyer quand il sera là et nous en parlerons. Merci et si un jour vous vouliez être à la fête du livre de Radio Courtoisie, ce serait merveilleux avec toutes ces œuvres. Alors, vous ne faites pas que qu'enseigner l'art floral. Vous intervenez aussi, m'avez-vous dit, dans des chaînes de magasins. Ah oui. Pour les bouquets d'ambiance, vous pouvez nous parler un petit peu de ça, je trouve ça très intéressant.
Je crois que la collaboration entre l'art floral de notre association et les floristes soit une très bonne chance. Et alors, je vais faire mes bouquets, une démonstration des bouquets de l'art floral italien, chez les grands magasins pour les floristes. Et je dois dire que les floristes sont un petit peu prévenus, comme on dit.
Ils ont quelques appréhensions quand même.
Appréhensions,
oui. Chez nous, pourrait faire beaucoup.
Chez nous, ça ne se fait pas. On n'a pas cette chance.
Mais
ça viendra.
Oui.
Mais je
crois... Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes complémentaires.
Au contraire, oui. C'est ce
et
que je pense.
Crois qu'ils, quelquefois, ils ont raison d'avoir
quelques
a priori. Mais c'est bon d'aller
et d'en discuter, justement.
De marcher ensemble.
Je pense.
Et alors, je vois que quand je fais les bouquets, tous les floristes sont avec une grande...
Mais bien sûr.
Oui.
Nous avons aussi cette chance à la SNHF où nous les invitons.
Ça marche très bien en ce moment. Et j'avais à ce micro, le mois dernier, la présidente de la Chambre syndicale des floristes d'Île-de-France. Mmh. Très dynamique, très sympathique. Et non, elle n'a plus, si elle en a eu, de prévention contre l'art floral amateur. D'ailleurs, je lui dis, vous savez, nos élèves sont vos clients. Alors déjà, c'est quelque chose.
Tout à fait.
Et puis, vous préparez, bien entendu, un certain nombre d'événements autour de Noël, tout ça. Alors ça, il faudra nous envoyer les dossiers de presse en temps voulu et nous les répercuterons puisque nous avons des auditeurs en Italie comme partout dans le monde. Donc ça intéressera tout le monde. Merci. Et pour terminer, est-ce que vous pourriez nous parler de votre visite à Rungis qui, je crois, vous a marqué?
Je suis étonnée. J'avais les yeux qui tombaient par terre.
C'est mignon, non?
Enfin, c'était une chose merveilleuse. Je n'avais jamais vu une chose. Je suis été à Johannesburg. Il y avait un grand marché en Hollande, aussi à Londres.
À Londres, oui, mais...
Et je suis vraiment, vraiment étonnée.
Nous sommes privilégiés, donc.
Oui,
nous avons les fleurs du monde entier.
Voilà.
Et toutes les étrangères que nous emmenons à Rungis nous disent, même les Russes, c'est le choc. Le choc.
Et vous avez acheté, et c'est peut-être pas un mot à prononcer en ce moment, vous avez acheté une bombe, nous avez-vous dit.
Oui, oui. Je ne sais pas, c'est un fruit.
Oui, c'est un fruit exotique.
Qui a une forme extraordinaire.
Qui a une forme tout à fait particulière, qui est énorme. Elle espère qu'on l'acceptera dans l'avion.
Dans l'avion. Et qu'est-ce que vous allez en faire? Vous avez déjà une idée?
Mais je pense qu'il sera une sculpture.
Ah, très bien.
C'est un élément décoratif.
Ah, on a encore 5 minutes. Alors, est-ce que vous avez quelque chose de particulier à dire aux auditeurs parisiens et du monde entier, d'ailleurs, sur l'art floral français? Est-ce qu'il a une petite particularité qui vous semble...
C'est un message très, très difficile, mais je voudrais que, en ce moment qui est un moment terrible pour tout, que tout le monde entre les fleurs soit uni. Et la fleur est une chose qui est avec la musique, avec tout.
Oui, c'est un langage universel.
Ah, oui.
Vous savez,
oui.
Ça fait bientôt 10 ans que j'essaie de faire ça à ce micro avec 10, 15, 20 minutes par mois autour des fleurs et de la nature. Alors, nous nous rejoignons. Merci beaucoup, Josie. Bon voyage de retour et beaucoup de courage pour tout ce que vous allez entreprendre. Merci, Marie-Jo. Et j'espère que bientôt, vous serez là avec quelques-unes de vos élèves. Parce
je
que
l'espère aussi.
Ce sera extrêmement sympathique.
Oui, elles sont j'imagine. Très, très, très fidèles à ces cours.
Je trouve sympathique ce geste d'accueil avec des fleurs naturelles dans leurs restaurants, dans leurs cafés, dans leurs hôtels. Et j'aimerais qu'elles viennent nous en parler.
Elles ont toujours estimé qu'ils n'étaient pas normal ayant des mets qui ont été longuement préparés d'avoir des fleurs artificielles sur la table. Ça ne se fait pas. Il faut des fleurs fraîches.
Oui, c'est vrai. Mais c'est
merci, Josie.
Un travail supplémentaire pour elle et donc c'est quand même très méritoire.
Voilà. Nous avons beaucoup apprécié la visite de Josie qui nous a apporté un éclairage tout à fait nouveau.
Oui, il faudra revenir peut-être, on verra. Ça dépend de nos animatrices. Voilà.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Becquetch, dirigé successivement par Serge de Becquetch et Daniel Amiche, avec l'assistance de Jacqueline Lovenbruck, document d'archives du 21 novembre 2001, rediffusé dimanche 26 février 2012 dans la nuit de 2h à 5h. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez la cassette pour le prix franc de port de 11 euros ou 8 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris.